Hello les amis, que de bonne humeur dans ce chat. En ce lundi matin, vous n'êtes pas normaux. Hein. C'est lundi matin, on devrait avoir un petit coup de blues. Rapport à la semaine qui redémarre, le travail, les études, pour beaucoup. Et non, vous êtes là, chill, tout va bien. Mais qu'est-ce que vous bouffez le matin? Une belle journée d'espoir pour l'Europe avec la défaite d'Orban. Ah oui, on va en parler. On va en parler, c'est dans l'actu. C'est pas dans les journaux parce que c'est tombé cette nuit, enfin les résultats. Mais on va trouver les articles, bien sûr. Oh, merci T-Bay. La pluie qui est la... du café. Ah oui, le café. Ah, mais la... c'est un élément de la recette du bonheur. Un élément de la recette du bonheur. Ce week-end, mon grand de 9 ans m'a demandé s'il pouvait... tremper l'élève dans mon café au lait. Je lui ai dit 9 ans, 9 ans. Alors il a mis un tout petit bout au bout de son doigt. Il a dit c'est bon, mais avec un c'est bon en mode ouais, en fait c'est pas vraiment bon, mais si papa aime, c'est que c'est pas bon, mais ça peut être bon, quoi. Voilà. Et du coup, il m'a demandé à quel âge j'avais commencé à boire du café, puis j'ai aucune idée. Et là, j'étais très embêté. J'ai rêvé que tu étais... j'ai rêvé que tu étais à mon anniversaire surprise, c'était chouette, me dit Brininis. C'était pas moi, j'ai rien fait ce week-end, j'étais en mode très chill. Enfin, sauf samedi, j'étais un peu chargé. Enfin, un peu chargé, mon emploi du temps, moi, j'étais pas chargé du tout. Je suis pas un cheval de course. Mon premier café au lait, j'avais 7 ans perso, me dit les tassus. Enfin, bien sûr qu'on va parler de la Hongrie. Bien sûr qu'on va parler de la Hongrie. Et je sais pas, du coup j'ai aucune idée. Je sais que j'ai bu du café parce que ma maman buvait du café. C'était une caféinomane absolue. Et du coup, je voulais faire comme elle. Donc ça a dû commencer tôt, mais je sais pas quand. Voilà. Mon premier café au lait, c'était dans le biberon. C'est-à-dire que ta maman était tellement au café que t'en avais aussi un peu toi. J'ai réglé 100% logique samedi soir. J'ai été très étonné de ça. Samedi soir, nous étions en live pour React Zerator et Sazilan, les annonces, les jeux. On a joué à Street Fighter 6 dans la foulée, on a rigolé. Et j'étais surpris parallèlement sur France 2, il y avait 100% de logique, animé par l'ami Cyril Ferraud. Et je n'en suis pas revenu du nombre de personnes qui regardaient l'émission. Voilà. Moi qui pensais que les ponts entre Internet et la télé étaient pour le moins réduits. Et donc, je me suis interrogé là-dessus. Pourquoi autant de gens venaient de France 2 ou regardaient les deux? C'est assez étonnant. Voilà. Peut-être parce que l'émission est bien. Peut-être parce que l'animateur est un bon animateur. Ouais. Ouais. C'est ce que dit Mathieu. Mathieu, elle est sympa cette émission. J'ai été éliminé avant toi. Est-ce que je dois m'inquiéter? C'est vrai, Matt. C'est sûr, ça. J'ai pas été très bon. Hein. Vous avez vu que vous avez vu que j'ai trouvé. La plupart des bonnes réponses que j'ai trouvées, c'était parce que j'avais eu du bol. Hein. Ouais. C'est-à-dire que normalement, 100% logique, c'est question de logique. Et moi, je trouvais des bonnes réponses, mais avec une logique, on va dire, illogique. Voilà. Et du coup, j'ai eu 3 médailles. J'ai adoré ces explications. Ouais. Alors, Cyril a beaucoup rigolé. Cyril, que j'aime beaucoup, et qui a été quelqu'un. C'est quelqu'un de prévenant, d'attentif, de. Sa passion pour son travail ne l'a pas dénaturé. Voilà. Et c'est vraiment un chouette garçon. Et je sais qu'il a passé un bon moment lors de l'enregistrement de cette émission. Il y avait une bonne ambiance avec les deux autres invités, avec le public aussi, et on a bien rigolé. Et du coup, cette émission qui devait passer en fait en septembre, elle est passée là. Je crois que la prod et la chaîne ont trouvé que ce numéro était cool. Ouais. Et du coup, Cyril m'a envoyé un message le lendemain. Il est vraiment incroyable. En se félicitant des audiences parce que le truc a cartonné, quoi. Par contre, tu sembles un peu fatigué. Je suis fatigué tous les jours. Je dors pas beaucoup, mais c'est mon rythme de vie. Donc cette tête là, la tête non maquillée. La vraie tête, c'est ma tête normale, c'est ma tête du quotidien. Je suis pas fatigué, je suis comme d'habitude. J'aime bien cette sensation de douce fatigue, en fait. J'aime bien, ça me met dans un entre-deux. J'aime bien. On est là, pas là. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc Cyril m'envoie un SMS le lendemain pour se féliciter et me féliciter des audiences, qui étaient vraiment très très fortes, et pour me remercier. Et je lui ai dit ça, je lui ai dit, mais samedi soir, c'était fou. Il y avait plein de gens sur live qui me parlaient de ton émission. Et je lui ai dit, ça c'est étonnant, parce que vous me parlez quand même très peu de télé, quoi. Donc ça c'est cool, ouais, bonne émission. Sinon, quoi de neuf? Ouf, ça, c'est ça, faut venir là. Eh, voilà. Regardez la brochette. Eh oh, ça c'est demain soir, ça. Ça c'est des mois de travail, ça. Hein. Oui, c'est demain. Ça c'est mon gros stream, ça. Ici, on aime les gros sommaires et on aime les gros streams. Voilà, line-up de fou et puis il y a même un petit invité surprise. Voilà, il y a donc Kevin Tran. Donc je prends on commence par en haut. Kevin Tran, le PA, bon, le Domingo, incroyable, qui dans son emploi du temps de fou, parce que PA, en vrai, il a un agenda de ministre. Bagheera, ah, mais c'est pas le bon visuel, il a été refait. Ah, j'ai un nouveau visuel. Attendez, on va rigoler, je vais vous le mettre aussi. Parce que j'ai reçu les photos. Quand on travaille sur un visuel pour une émission, on demande aux invités, aux talents, comme on dit dans ce milieu-là, de nous envoyer des photos, quoi. Et ça, c'est une photo de Marie que j'avais déjà lors d'un stream précédent. Et l'agent de Bagheera m'avait pas envoyé la photo tout de suite. Et du coup, on les a reçus un peu à plus tard. Et j'ai fait un, on, j'ai fait. On a fait un deuxième visuel. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, le deuxième visuel? Je l'ai pas. Où est-ce qu'il est le visuel? C'est Joe qui m'a envoyé ça. Mais je sais que je l'ai reçu pourtant. Doit être quelque part pourtant, non? Ah bon, je l'ai pas. Bon, tant pis. Oh, le raid de l'ami David. Au poste. Mais tu streams super tôt. Il est 9h25, je commence. Et David, il termine. Bonjour Samuel, ils nous ont sucré question pour un champion hier. Ah, ils ont pas diffusé hier? Oh, je m'interroge plus sur la diff, moi. Un jour c'est là, un jour c'est pas là, un jour c'est les vacances, un jour c'est le week-end, un jour c'est... Ah, c'est du vélo, voilà, oui, un jour c'est du sport, oui, voilà, oui. Oui. Après, comment ça se fait que David stream si tôt le matin? Parce qu'après, il enchaîne? Ou il va au lit? Il y a Thomas 2h dans le chat. Ça, c'est vraiment, je suis dans la quatrième dimension. Il y a Thomas 2h dans le chat qui dit, mais c'est qui l'invité surprise? Il y a Thomas 2h dans le chat qui dit, mais c'est qui l'invité surprise? Thomas 2h, l'humoriste. Le gars qu'on aime. Incroyable. Thomas, je viens de recevoir un raid de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est David de la chaîne Au Poste. Et je me demandais pourquoi il streamait si tôt et qu'est-ce qu'il faisait après. C'est un peu mystère. Elle a commu David là. Qu'est-ce qu'il fait après le David pour streamer si tôt là? Qu'est-ce qu'il fait après? Il enchaîne, il a un vrai boulot, c'est ça? Il convoque? C'est-à-dire... J'aime bien moi. Il se repose, ça m'étonnerait. Qui est le meilleur selon toi? Waouh! Merci, Janiv Senbig, pour ta question du matin. La question folle du matin. C'est tous les lundis matin, France déterre à 7h, ok. Rien après le lundi, prépare la suite de la semaine. D'accord. Et prépare les streams de la semaine. D'accord, ok. Alors, l'invité, donc. Merci encore pour le raid. Tiens, il y a Joe qui me demande si je compte faire la Zilane. C'est le petit WhatsApp que vous venez d'entendre là. Donc, Thomas Dozer, l'ami Thomas Dozer, que j'aime beaucoup, qu'on a vu notamment dans Ça me plaît il n'y a pas longtemps, vient de pop dans le chat en demandant, mais qui est l'invité surprise? Je reviens donc. Je reviens donc à Réponse Cash. Donc c'est la deuxième édition. On a fait une la saison dernière. Réponse Cash, c'est un quiz de culture générale. Enfin, il y a des petits jeux, il y a des trucs. On a vraiment pimpé la première édition. La première édition, c'était un quiz qui était sympa. On s'est bien amusé. Et là, on a rajouté des petits jeux en plus et tout. Donc, le public avait bien aimé, mais il avait trouvé que les questions étaient un poil difficiles. Donc, on a fait des questions un peu moins difficiles sur l'univers de la thunasse, de la moula, de l'argent. Voilà, c'est une réponse cash parce que ça parle de cash. Voilà. Et l'argent, 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 l'argent. L'argent, quoi. Je lis réponse EH. Oui, c'est vrai qu'avec oui, le C est un peu étrange, tu as raison. Qui écrit les questions? Un auteur, un auteur, un auteur. Oui, le Ponyang, bien sûr. Donc, deuxième édition, des questions un peu moins difficiles, des petits jeux en plus, une line-up de fou et un ou une invitée surprise. Thomas Dezer s'interrogeait de savoir qui était l'invité surprise. Motus, rendez-vous demain, mardi 20h, line-up de fou, fête de fou, ambiance de fou, ambiance de scandale, danse de vandale, etc. Voilà. Oh, coucou Verena. Bisous à ce petit animal. Est-ce que c'est Thierry Beccaro? Est-ce que c'est Zerator? Est-ce que je tiens, pourquoi pas Thomas Dezer qui vient de pop dans le chat? Oh, Joe! Ça me vole ma ref, envie de mourir. Ambiance de scandale, danse de vandale. Mais moi j'écoutais ça, t'étais pas né, Joe. Joe, il pop dans mon chat, affirmer que je lui pique sa ref à propos d'un morceau. Il était pas né que je l'écoutais, quoi. Les jeunes. C'est ça, les jeunes. Ça doute de rien. C'est à ça qu'on les reconnaît. Dingue, ça. Alors, Joe me demandait si j'allais faire. Joe me demandait sur WhatsApp à l'instant si j'allais faire la Zilane. Écoutez, ceux qui étaient là samedi soir sont pas surpris. J'ai découvert en direct avec vous les jeux de Zerator cette année. Je ne suis pas sûr. Un mois de tryhard, un mois d'entraînement intensif. Je sais pas, il y a des. Maintenant, je sais maintenant comment Zera fonctionne. Je sais que dans son panel de 10 jeux, il y a quand même plusieurs jeux totalement what the fuck sur lesquels tu vas poncer, jouer pendant des heures en disant, mais ce jeu est une bousasse quand même infinie. Vous vous rappelez l'an dernier? Voilà, nul à chier, exactement, Sugar. Voilà. Donc il le fait exprès, hein, pour le content, hein, pour le spectacle. Voilà. Et franchement, cette année, le planning est chargé. Il y a les revues de presse le matin. Désormais, tous les matins, tous les matins, tous les matins. L'année dernière, c'était pas encore le cas. Il y aura plein de MVP d'ici la fin de l'année. Il y a des petits projets qui se préparent et tout. Donc, je suis pas. Il y a le bébé. J'aurais dû commencer par ça. Mais il y a Monsieur Pio à la maison qui approche de sa 6e semaine. Donc, je suis pas sûr de me mettre en retrait de tout ça pour m'entraîner pendant un mois, sachant que l'an dernier, j'avais mis la revue de presse entre parenthèses, par exemple. Alors, évidemment, si je vous demande ça à vous, public de la revue de presse, est-ce que vous êtes pour que je ne présente pas la revue de presse pendant un mois, pour que je puisse faire la Zilam, vous allez me dire, c'est pas fou, quoi. Alors, c'est ce qu'on a fait l'an dernier. Hein. Et franchement, c'est le minimum, hein, parce qu'en fait, une Zilane, t'es obligé de la tryhard, quoi. Sinon, j'y vais, comme certains me le proposent, en full touriste. Mais déjà que quand j'y vais en ayant bossé les jeux, j'arrive avant-dernier. Si tu veux, t'imagines la séquence en full touriste, quoi. Et en plus, tu y vas avec quelqu'un. C'est-à-dire que tu emmènes quelqu'un dans tes turpitudes, quoi, dans ta tourmente. Le pic de croissance des 6 semaines qui arrivent. Ah, c'est pour ça, Axel, qui n'arrête pas de bouffer? Il y a Axel Roy officiel qui dit ou le pic de croissance des 6 semaines qui arrivent, mais il n'arrête pas de manger. Il n'arrête pas de manger, mais il ne fait que ça, non-stop. Et il grandit, il fait quasiment ma taille. Ah, c'est pour ça. Ok. Alors Joe m'a dit qu'il y allait. Alors Joe, j'ai l'impression que Joe il a un ticket là. que Joe me dit, moi j'y vais, moi. Je l'ai vu dans le chat. Alors ça veut dire qu'il a trouvé un mate. T'as trouvé un mate, Joe? Ça va tryharder? C'est peut-être une. Ok. Donc Joe, il a trouvé une mate. Ok, Joe, il y va, la Zilan. Ok, je vais peut-être passer cette année. Je vais peut-être passer cette année, mais pour mieux revenir. Voilà. Parce qu'ici, c'est la passion du jeu, la passion du jeu vidéo. Voilà. Donc je vais peut-être faire l'impasse cette année pour mieux revenir. Voilà. Quand je serai moins occupé. Jamais, c'était jamais. Je n'ai remercié aucun sub depuis ce matin et pourtant plus de subs. C'est parti. Ok, Céline Dion. Ah oui, je vais. Ah oui, je le fais pas cette année pour mieux revenir. Très bien. Et tout à fait. J'ai la ref. J'ai pas eu de place d'ailleurs. Comme tout le monde, j'ai essayé d'avoir des places pour Céline Dion, j'ai pas réussi. Merci Geek Asmodée pour le troisième mois. Antosu pour le 12e mois. Au poste encore, mon ami David, pour le raid. Sickness, 995 pour le 19e mois. The 7005 pour le 2e mois. Beginner pour le 27e mois. Rainbow 86 pour le 44e mois. C'est dingue, hein. Yo-Yo Man pour le 54e mois. Sugar Frog pour le 28e mois. 54 mois, Yo-Yo Man, bordel. Merci, Sugar. Mumstone pour le Prime. CHXBLT pour le Prime. Jerem, Mimi, 7, Tic Tac, Don, Greedy. Ces gens qu'on sub la nuit dernière. Incroyable. Et à l'instant, Calma pour le Prime. Merci beaucoup. T'as vu Trump? Non, pas récemment, non. Je ne lui parle plus beaucoup. Hein. Je trouve que le mec a quand même viré totalement fou du bus. Bon, moi, je suis quelqu'un de nature anxieuse. J'essaie de ne pas m'entourer de gens comme ça un peu. Waouh! Donc, non, pas récemment, non. Par contre, dans l'actu, oui, j'ai vu il a encore dit des dingueries. Oui, ça m'en parlait ce matin. Tiens, je vais vous mettre le sommaire pour vous mettre un petit peu en appétit. Il est où mon gros sommaire? Allez, le gros sommaire là. Voilà. Il vient de se prendre pour Jésus-Christ? Ah, ça, je l'avais pas celle-là. Ah, ça, je l'avais pas celle-là. Capsule sur le Détroit et Trimp? Trimp, je sais pas. Trimp. Trump. Musk se fait plus discret, lui. Oui, bah oui, Musk a dû comprendre que pour le business. Les déclarations à tort et à travers, c'était pas forcément une bonne chose. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai cru voir que c'est les ventes de ces voitures là repartaient à la hausse. Et il est peut-être pas impossible que le fait qu'il soit plus associé à Trump, vous savez, quand il chapeautait un truc sur l'administration Trump là, ça doit jouer un petit peu quoi. Ah, il apparaît en image IA en serviteur du Christ. En train d'apposer les mains sur des malades. Il est dingue en fait. Mais lui quoi. Oui, il fait moins de saluts romains, ouais. Oui, il est. Voilà, oui. Oui, c'est, non, mais. Il a suggéré d'annuler les midterms. Mais c'est encore? Attends, il a refait ça? Le prix de l'essence joue peut-être aussi pour les Tesla. Oui, aussi, ouais. Attends, il a reparlé des midterms? Ce mec est dangereux. Ce mec est dangereux. Ok. Alors, oh oui, Mathieu me disait, bah, capsule sur le Détroit et Trimp. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce matin, c'est la question de. Tiens, je tousse. Je sens que j'ai pas pris mon petit truc anti-toussif. Hein, la petite toux, là. C'est pas grave, je prendrai tout à l'heure. Mais comme quoi, quand j'oublie. Voilà. Vous avez remarqué qu'à une époque, je toussais non-stop en revue de presse et puis que c'est arrêté. Alors, qu'est-ce qu'on met Ouais, Trump, ouais, ça peut, ouais. Trump et quoi, tu disais, Mathieu? Trump et quoi? Attends, je remonte. C'est Mathieu, il gère la chaîne YouTube et c'est le petit extrait qu'on met sur YouTube. Donc, il naît. Je t'ai perdu, Mathieu, merde. Attends, hop, j'ai ton historique là. Mathieu. Détroit? Ouais, Détroit, ouais, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le plaidé coupable, c'est intéressant, c'est un peu technique. Pour vous, c'est OK Twitch, mais YouTube, ils sont pas malins, malins comme vous. Hein, c'est pas, c'est, donc, ouais, on va, ça va être un peu compliqué le plaidé coupable. Orban, je manque de recul. On est sur l'actu brut. Demain matin plutôt. Bisous à ceux qui viennent de YouTube, hein. C'était une vanne, bien sûr. Ouais. Ouais. Et Artemis, la beauté de la Terre, c'est joli aussi. Non, mais ok, ouais, on va faire Trump, qui ordonne le blocus du détroit d'Ormuz. Ça nous permettra de parler de Jésus, là. Ok, c'est quoi cette histoire de Trump, Jésus? Trump, Jesus. Actualité. Fais voir. Trump posts Jesus-like pictures of himself performing miracle on sick man minutes after ramping up feud with Pope Leo. Qui n'est quoi? Waouh! Mais le mec est dingue. Mais le mec est dingue. Et oui, et il a parlé du pape. Mais là. Attends. Et il a parlé du pape aussi. Waouh! Ah, merci le HuffPost. Le HuffPost, c'est un site d'infos sur Internet gratuit qui finance par la pub. Mais qui est intéressant que. Ah, ça, c'est un. Oui, ça, c'est un peu plus vieux parce qu'il est. Ça, c'est autre chose. C'est pas la première fois, hein, regardez. C'est un article du 30 mars. Trump se voit au paradis, le pape met en garde contre les dirigeants qui invoquent la foi pour faire la guerre. On lira cet article en vrai. Attends, on va rajouter un truc. On va rajouter un truc. On va rajouter un truc. Mais du coup, j'ai que les articles en. Ce que j'aimerais comprendre, c'est ce qu'il a dit sur le pape. Attends, on va faire une autre. Ah, j'ai tapé Jesus. Jesus. On va trier par date. Voilà, c'est ça. C'est ça. On commence à assembler les morceaux du puzzle. Pas un grand fan. Trump qui dit je suis pas un grand fan du pape. On dirait qu'il parle d'un joueur de foot. Mais. Fatigue, je suis fatigué. C'est lundi matin, 9h41, j'en peux déjà plus. Oh, de Dieu. Oh, je suis pas un grand fan. Oh, je suis pas un grand fan. Donald Trump a attaqué dimanche Léon XIV, premier pape américain, jugeant sa position critique sur la guerre en Iran catastrophique. Y a rien qui va. Affirmant ne pas être un grand fan du souverain pontife. Mais le mec n'a peur de rien, quoi. Et surtout pas du ridicule. Ah, j'adore. Waouh! Ok, écoute, vous savez quoi? On va rajouter ça. Hein. Je pense, Mathieu, que c'est ça l'actu sur YouTube. On est à la pointe de l'actu ici. On va rajouter un truc, on va rajouter un sujet qu'on va appeler. Comment on va l'appeler ça? C'est Trump avec Jésus contre le pape? comment? Un petit titre sympa là. Et la photo de la Trump Tower sur la Lune? Ouais, mais non, bah, attendez, faut choisir. Dans les dingueries, chaque heure de Trump, il faut choisir. On va pas toutes les faire. Hein. Trump, Jésus, tr Trump, les. Waouh! Trump le Messie? Waouh! Wow. Trump versus le. Oh, Trump versus le pape! C'est bon ça. Oh, Trump se voit en Messie. Oh, en Messie, en Messie, tu l'as écrit exprès comme le joueur de foot, hein. Parce que Messi comme ça, c'est joueur de foot. Mais sinon, Messi, c'est avec un E. Non? J'ai un doute, vous me faites douter. Messi, c'est comme ça. Le Messi, oui. Parce que je vois des Messi sans E. Eh, c'est pas une chaîne de foot ici, hein. C'est pas une chaîne de foot, hein. Oui, avec un E. Trump en papaouté. Trump le fou du bus. Ouais, mais ça marche tous les jours. Donc du coup, on saura pas de quoi il parle. Trump, le nouveau Messie. J'adore. Bisous à Mamie Martine, à toutes. À toutes et à tous. Oh, incroyable. Bisous à ton papa aussi. Trump is the new... Oh, Trump is the new Jesus? Mais... C'est pas mal ça aussi. Pas mal ça. C'est drôle, il y a Lazare. Il y a Lazare qui vient de sub. C'est pas un hasard. Hein. Lazarus, oui. Moi j'aime bien basique, simple, efficace. Trump versus le pape, quoi. Le Messie. Le Messie Trump. Versus le pape. Ça a de la gueule ou pas? Et j'ai vu qu'il y avait un article dans l'Opinion. J'ai vu un titre. Ouais, et il y avait un titre dans l'Opinion. Et je vois bien le Huffington Post se pencher là-dessus, moi. On va mettre l'Opinion, c'est très bien. Et hop, choisir des journaux, l'Opinion. Tac. Tac, et on va le mettre là. Là, ici. Vous avez vu? Vous avez vu comment ça bosse? Voilà, et le sommaire qui devient de plus en plus gros. Et le sommaire qui devient de plus en plus gros, c'est pas beau ça, cette passion pour l'actu là? Hein? Regardez comment le sommaire il a gonflé là. Sans transition d'ailleurs. Et hop, un zizi. Ce samedi, j'étais donc au festival MVP. Eh oui, je sais. Donc, non, contexte, vous savez que j'aime contextualiser, moi. Donc, je vais encore avoir des problèmes. Donc, ce samedi, j'étais au festival MVP. On a réussi à transformer une émission d'Internet sur Twitch en festival. C'est-à-dire qu'on est fou et on l'a fait. Il y a des milliers de personnes, une dinguerie. Tout le monde content, les partenaires, les visiteurs, voilà, fou. Et donc, j'ai vu plein de viewers aussi qui sont venus me voir. Voilà. C'est quoi ça, Patient Zizi? Et parmi les cadeaux, ben, il y a une viewer qui m'a offert Willy. Bon, ben, alors c'est un jouet. C'est un jouet. I'm Winnie, ready to adopt me a friend for life. Voilà. Et donc, je pense que c'est un truc pour déstresser. C'est un truc en mousse, là. Voilà. Et donc, peut-être un clin d'œil à mon pseudo d'internet, Mister Chibre. Voilà, avec y a un petit y a un dragon qui est dessiné dessus. Voilà, il est trop beau. Merci. Ah, vous parlez du zizi. Voilà, c'est un zizi anti-stress. Quelqu'un m'a offert un zizi ce week-end. Donc voilà, donc j'avais promis de le montrer samedi. Celui-là, hein. On n'est pas fou, pas comme Trump. Et donc, je l'ai oublié à la maison, donc je vous l'amène. Il faut le masser pour se détendre. Ah, bon, je sais pas. Voilà. On va le mettre dans le décor. Attendez, j'enlève le sommaire. Ah non, faut que j'enlève le réponse cache. C'est quoi ça? Pourquoi j'en ai deux? C'est quoi ce bordel? Ah voilà. Et on le voit là. Oh non. Oh, c'est pas possible. Le mec est fou. Ça, c'est moi, la Zilane. C'était quelqu'un de la commu aussi qui m'avait fait. Vous savez, quand j'avais mon canard gonflable là. Ça, c'était moi, quand j'avais les cheveux verts, tout ça. Non, pas la Zinane, le The Event. Ah, ça a été fait main, ça. Hein. Ça a été fait main, ça. Regardez. Regarde derrière. J'avais pas vu tout. Derrière, il y a le portrait d'étoile que j'avais fait en The Nation Goal. Il y a une tasse de café. Des crayons. Voilà, mon canard gonflable. Ça, c'était mon premier The Event, je crois. Les cheveux verts. Hein, c'est ça, hein. Ça a pas quitté mon décor, ça. Et maintenant, j'ai Willy le zizi. Voilà. Oh putain. On est vraiment. C'est donc ça le métaverse. Pourquoi je parlais, je sais pas comment on en est arrivé à parler de ça. Et tout ça avec l'argent, oui, tout ça avec l'argent du public, bien sûr. Oh, ça va mourir. Merci Fanny Keren, merci encore Lazarus, merci Mitsuhiko 18, merci, merci à tous les trois. Ah, Internet. Voilà, c'est pourquoi tu veux pas revenir en télé. Bah, parce que voilà, parce qu'ici on rigole plus. Voilà. Donc on a bien enrichi le ouais, caméra qui joue toute seule là. On a bien enrichi le sommaire quand même grâce à vous. D'ailleurs, on va aller bosser un peu là. Il est où le sommaire? Voilà. Voilà. Le Messi Trump versus le Pape. C'est incroyable cette histoire. Ok. Donc, je pense qu'on peut faire. Je pense qu'on peut faire ça. Je pense qu'on peut faire. Ou alors, ça, j'ai envie de changer ce titre. Je pense que ça, c'est mieux, encore mieux, ça. Toi, Trump se prend pour le Messi, tout simplement. Messia. Voilà. Let's go. On est prêt, je crois. Vous êtes prêts à y aller ? On va aller bosser un petit peu, là. Mais, Willy de l'autre côté pour le cacher avec ton sommaire. Non, on le cache pas, on assume ici. On assume ici. C'est Internet, hein. Hein. On n'est pas sur France 3, hein. Let's go. Ok, super. On va commencer par le sommaire. Puisque vous savez, je vous rappelle que nos amis qui nous écoutent en podcast audio n'ont pas le sommaire. La revue, le podcast audio de cette revue de presse. Il y a beaucoup de gens qui écoutent la revue de presse en podcast audio sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, tout ça. Ils n'ont pas le sommaire. Ils n'ont pas les dingueries. Ils ont juste l'info, quoi. Parce qu'après, je pense qu'ils ne sont pas prêts. Je pense qu'il faut aller doucement. Ok ? C'est moi ou le... Non, c'est bon, c'est bon. Go ! Ils ont pas la rêve de Willy. C'est-à-dire que, oui, puis non seulement ils seront pas que. Les gens en audio, ils savent pas qu'il y a un zizi dans le décor. Exactement. Attends, je vais vous mettre le monde et vous allez comprendre pourquoi. Genre, tu cut ? On met pas le début, ouais. Alors. Le monde. Un petit Orban. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va commencer par Orban, mais il n'y a rien dans les journaux PDF, puisque c'est tombé cette nuit, bien sûr. Voilà. Où est-ce que j'ai mis ça ? Je cherche un truc qui était assez cool. Bougez pas. 3 minutes. Je vous montre ce que je suis en train de faire en fait. Comme l'actu sur la présidentielle en Hongrie n'est pas encore en PDF, hein, ce sont les actus qui sont tombés cette nuit, il n'y a pas d'article dans les journaux papier PDF que, je suis allé voir ce matin. Et en allant sur. Sur Le Monde, j'ai vu qu'il y avait plusieurs choses. Législative, pardon, pas la présidentielle. Excusez-moi, j'ai fourché. Et après, donc je suis allé voir sur Le Monde et j'ai vu plusieurs articles. Voilà. Attends, il y a un problème sur Hongrie. Et je ne retrouve pas celui qui m'intéressait. Parce que j'avais notamment trouvé un article incroyable, enfin une petite vidéo en 3 minutes qui résumait vachement bien. Le truc, mais je le vois plus, c'est incroyable. C'était le truc en 3 minutes, c'était étonnant, incroyable. Mais je vais vous le trouver. Il y a un édito, ils ont fait un édito ce matin. Ah bah ça suffira. Parce qu'en fait c'est ça que disait la vidéo. Ok, super. Ok, très bien. Bon, on ira voir cet édito qui va mettre un petit peu de sens. Et en factuel, celui-là, le récit peut-être. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Ah, par contre, au niveau des prononciations, ouais, il faut la m'aider un petit peu, par contre. Tellement fier d'avoir pu voter hier, me dit Mirzella, qui est donc peut-être hongrois, hongrois. Ah oui, framboise, comment tu l'as trouvé? Ouais, celui-là. Ah non, c'était pas celui-là, c'est encore un autre. Quoique si, c'est peut-être celui-là, ouais. Si, t'as raison. Exactement. C'était les enjeux en 3 minutes. Et c'est intéressant de. Ah ouais, c'est ça. Et c'est de voir comment. C'est de. Ouais, c'est ça. Ah,
Premier
c'est pas mal.
ministre.
Bien vu, bien vu. C'est moi, je trouve. J'ai jamais fait ça, parce que moi, ce que j'aime lire, c'est les articles. Mais je trouve qu'un journal comme Le Monde fasse des vidéos en 3 minutes pour faire comprendre un sujet complexe de la manière la plus simple possible. Je trouve ça intéressant, c'est quand on voit que les médias traditionnels essaient d'inventer de nouveaux formats. Donc ça, effectivement, on ira le voir. C'est intéressant au niveau du fond et de la forme, quoi. Super. Bon, entre ça et l'édito, on a ce qu'il faut. Ok, let's go. Bon, par contre, il va falloir qu'on se mette à bosser parce que là, on a du pain sur la planche. C'est parti. Bam, bam. Le sommaire, c'est parti. Let's go. 3, 4. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne, la revue de presse du matin sur Twitch, qui est aussi diffusée sur YouTube et en podcast audio. Donc je salue ceux qui sont ce matin, ce lundi avec moi en live sur Twitch. Je salue ceux qui vont nous écouter tout à l'heure et demain en replay sur YouTube. Et tous ceux qui vont nous écouter à partir de 15-16 heures aujourd'hui sur toutes les plateformes de podcast audio. Voilà. Sachez qu'en podcast, vous n'avez pas toute l'intro. Toute l'intro, puisque on s'échauffe pendant une demi-heure, un peu plus ce matin encore, en disant plein de bêtises, on a bien rigolé, notamment à propos de certains éléments du décor. Mais ça, faut être sur Twitch. On va commencer par le sommaire, comme d'habitude, et merci d'être avec nous. Beaucoup, beaucoup d'actu ce matin, notamment des actus toutes fraîches, voilà, actu qui vient de tomber, hein, c'est les élections en Hongrie, avec la déroute du camp d'Orban, hein, de Viktor Orban. Qui avait mis en place un régime que certains qualifient de régime illibéral. Illibéral, on aura l'occasion de revenir sur ce que ça veut dire. Régime autoritaire, disent d'autres. Et alors, pas d'article ce matin dans la presse, papier, PDF, hein, qu'on peut télécharger tard le soir ou ce matin, ou qu'on lira dans les journaux, puisque les résultats sont tombés dans la nuit. Mais des articles, bien sûr, sur Internet et notamment sur les journaux que je lis. On ira faire un tour du côté du journal Le Monde pour voir ceci. Par exemple, cet article publié à 5h26 tout à l'heure ce matin. La Hongrie célèbre son retour en Europe après la sévère défaite électorale de Viktor Orban. Il y a un contexte où il faut comprendre que la Hongrie était, le régime hongrois était un pays qui était très apprécié de tous les gens qui se réclament, ou ne se réclament pas d'ailleurs, mais ils sont quand même de ce qu'on appelle l'extrême droite en Europe. Le parti de son rival, Péter Magyar, Tisza, j'espère que je prononce bien, il faudra me corriger, a obtenu plus de 53% des voix aux législatives, loin devant le Fidesz du Premier ministre qui en décroche à peine 38%. Et donc le parti de l'opposant devrait obtenir une majorité, large majorité. Donc on dit Tisza. Alors j'avoue que si j'ai vu que certains avaient voté, certains qui donc sont hongrois ou hongroises dans le chat, ils vont me corriger hein, sur ces prononciations, c'est important. Donc on lira cet article, on ira peut-être aussi cet édito hein, qui a été posté à 9h11 ce matin. Il y a une trentaine de minutes sur la déroute bienvenue de l'illibéralisme, ce qui nous permettra de. On dit ça, de donner une définition de l'illibéralisme. Et on ira voir une petite vidéo aussi, voilà, en 3 minutes sur pourquoi cette élection était importante, quels étaient les enjeux. Ok? Voilà, donc ça c'est le premier sujet. On est sur l'actu chaude. Actu chaude également, des nouvelles du conflit iranien. Voilà. Alors ce matin, je suis allé, j'ai feuilleté les journaux et notamment je trouvais deux articles intéressants, Le Parisien et Libération. Alors vous savez que ce conflit voulu par Trump et le régime israélien contre l'Iran a provoqué notamment le blocage partiel important du détroit d'Ormuz, avec un impact sur l'économie mondiale extrêmement inquiétant. Il y a eu un cessez-le-feu qui vient de se décider il y a quelques jours, de 15 jours. Des négociations se sont mises en place. Le premier round de négociations s'est très mal passé. Les deux parties se sont séparées en faisant un constat d'échec. Donc, et parmi les revendications de Trump, il y avait la levée du blocage du détroit d'Ormuz. Alors du coup, qu'a décidé Trump? De bloquer le détroit d'Ormuz. En rétorsion. Voilà. Tu bloques le détroit d'Ormuz? Alors moi aussi je vais bloquer le détroit d'Ormuz. Ok. Ok. Parce que du coup il y avait quand même quelques bateaux qui passaient. L'Iran était ok pour laisser passer certains bateaux. Trump a dit non, non. Big brain. Donc c'est pas inventé. Hein. Trump ordonne un blocus naval du détroit d'Ormuz. Je peux vous dire qu'à 5h du matin, quand vous lisez ça sans le café, vous dites attends, faut que je me reprenne un deuxième café là. Voilà. Et puis on a un article de Libération qui éclaire un peu les négociations entre l'Iran et les États-Unis qui se quittent bons ennemis. Voilà, on lira ces papiers. Et puis ce matin, c'est vous qui m'avez alerté cette info, parce que tout à l'heure j'évoquais Trump, et certains m'ont dit: Ah, mais t'as pas vu la photo de Trump où il se compare à Jésus? Ben, j'ai dit non. Ben non. Et oui, sur son compte, sur Truth Social, c'est pratique d'avoir un réseau social qui est à toi quand même. Il a posté cette photo, effectivement. Et là, on pourrait juste en rire en disant, mais waouh! Et on va pas que en rire, puisque parallèlement, il a aussi critiqué le pape Léon XIV, un compatriote, puisqu'il est américain d'ailleurs. Il y a un article de l'Opinion là-dessus. Pas un grand fan, Donald Trump critique le pape Léon XIV opposé à la guerre contre l'Iran. Voilà, lien avec le sujet précédent. Là aussi, ça vient de se passer. Actu super chaude, donc on en parlera tout à l'heure ensemble. Voilà. On continue le sommaire. Ça n'est pas terminé. On reviendra en France avec un sujet qui a l'air technique mais qui est essentiel, qui est le projet de réforme de la justice française pénale de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux. Objectif, désengorger la justice criminelle, hein, parce que vous savez que les tribunaux sont engorgés, manque de moyens, et puis il y a certains sujets sur lesquels les Français et les Françaises n'hésitent plus à porter plainte, et c'est tant mieux, par exemple les violences sexuelles. Hein. Et le problème, entre guillemets, parce que du coup ça fait polémique, c'est que l'une des mesures de cette réforme, c'est, hop, c'est ici dans Libération, voilà, la création d'une procédure de jugement pour les crimes reconnus, PJCR, PJCR, pardon, qu'on appelle communément le plaidé coupable criminel. Voilà. Plaidé coupable, exactement. Pas de procès. Voilà, le gars, il est accusé d'un truc, il dit OK, c'est moi, j'ai fait. Voilà. Et en échange, il y a une peine qui est discutée, et une peine qui est censée être a priori plus légère que celle qu'il aurait pu prendre au procès. Mais du coup, il n'y a pas de procès, économie de moyens, etc. Sauf que des voix s'élèvent, notamment de magistrats et d'avocats, qui disent: Bah oui, mais sauf que le procès, il n'a pas vocation qu'à condamner. C'est aussi un moment important pour la victime, par exemple, qui se voit reconnaître victime. Voilà. Il y a plein de choses comme ça. Voilà, comme le dit Pistelu, les victimes peuvent bien aller se faire foutre. Voilà. Donc, il y a un dossier dans Libé pour nous faire comprendre un peu le truc, et il y a un dossier dans l'Humanité qui dénonce effectivement cette réforme, qui dit c'est une erreur judiciaire, l'erreur judiciaire de Gérald Darmanin. Le garde des Sceaux veut désengorger le tribunal en étendant les peines négociées aux affaires criminelles, une logique gestionnaire qui inquiète avocats et magistrats. Qui les divise aussi, parce que vous avez des magistrats qui sont pour eux. Donc on lira ce dossier. Un débat sur le travail, le 1er mai. Le 1er mai, normalement, c'est férié, chômé. Hein. Hop. Il y a quelques petites exceptions. Eh bien, le gouvernement voudrait qu'il y ait plus d'exceptions. Voilà. Une proposition de loi devrait être débattue vendredi 10 avril à l'Assemblée, afin d'autoriser le travail le 1er mai pour quelques secteurs et sur la base du volontariat. Hein, on parle notamment des salariés dans la boulangerie, chez les fleuristes notamment. Les débats autour de ce texte rappellent les polémiques soulevées par l'élargissement du travail le dimanche en 2015, parce que beaucoup craignent, voilà, certains sont en train de dire volontariat avec des guillemets dans le chat, parce que beaucoup craignent que, une fois que tu as ouvert la porte, et qu'il y a un doigt dans la porte, ben on y met le pied, et puis la jambe, et le coude, et tout le corps, et que de quelques exceptions, on en met d'autres, et que très vite le volontariat devienne une forme d'obligation quand tu arrives dans une entreprise et qu'on te dise, bon, bah voilà, au fait, ici, le dimanche, ça bosse, quoi. Voilà. Et si je veux pas, bah, si je veux pas, je t'embauche pas. Voilà. Donc voilà, c'est ce débat qui est intéressant, éclairé par Lacroix, qui fait un très bon papier sur le sujet. Voilà, on ouvre la boîte de Pandore. Voilà, c'est un peu l'idée. Et puis on finira avec un truc un peu plus léger, une bonne nouvelle. On viendra d'abord sur la réussite de la mission Artemis 2, le retour sain et sauf, ça c'est important, des quatre astronautes sur Terre. Moi, premier degré, je stressais beaucoup pour eux parce que je savais qu'il y avait une histoire autour du bouclier thermique, finalement tout s'est bien passé. Donc déjà, ils sont pas morts, ils sont en pleine forme et ils ont vécu un truc exceptionnel sur lequel une astrophysicienne qui s'appelle Fatoumata Kebe, dans Libération, fondatrice de l'association Éphéméride, eh bien revient en célébrant ce moment et en disant, au-delà du défi technique, au-delà de la question de la conquête de l'espace et de la base sur la Lune un jour, etc., le fait d'aller comme ça dans l'espace et de regarder la Terre, hein, avec ses yeux, comme l'ont pu faire les quatre astronautes, c'est un truc de fou, hein, qui nous rappelle la beauté d'abord de notre planète, sa singularité, sa fragilité, hein, et que ce regard depuis l'espace vers la Terre doit nous faire réfléchir. Voilà. Et elle dit, on va pas tous dans l'espace, mais on devrait tous se poser cette question. Voilà. Oui, c'est ça. Comme le dit Mathieu, ça fait relativiser plein de choses. Voilà. J'ai vu tellement de complotistes dessus sur les réseaux. Oui, qui sont pas allés dans l'espace, qui sont allés dans un studio télé. On a déjà parlé la semaine dernière. Bon, après on va pas se moquer des complotistes chaque jour. Hein, les pauvres, les pauvres. Hein, je les plains plus que les gens qui sont persuadés aujourd'hui, premier degré, que les mecs sont pas allés dans la Lune et qui sont dans un studio, hein, qui ont pris le téléphérique. Le téléphérique près de la fusée, qui sont allés se cacher. Et bah écoutez, on va pas en rire avec eux tous les jours. Là, on l'a fait la semaine dernière déjà. Voilà. Il n'est pas beau mon sommaire? Il n'est pas beau mon sommaire? Hein, on va faire ça ce matin. Voilà. Ici, on parle d'actu, on parle de choses sérieuses, mais on se trompe pas le chou. Ça enlève un petit peu du côté anxiogène de tout ça. Go! C'est parti, je vois un go dans le chat. Ok, alors on commence par l'actu chaude. Voilà, ça vient de se passer, c'est en Hongrie, des élections. Et pas d'article, c'est trop tôt. Dans mes journaux papier, donc on va aller voir les journaux sur Internet et j'ai vu que dans Le Monde, voilà, il y avait des choses. Plusieurs articles, on va peut-être prendre les faits pour commencer. Et il me semble que cet article est intéressant ici. Voilà, la Hongrie célèbre son retour en Europe après la sévère défaite électorale de Viktor Orban. Ok. Sauf qu'on va commencer exceptionnellement par un truc que je fais jamais. C'est-à-dire qu'on va regarder une vidéo d'actu. Parce que en surfant ce matin sur le World Wide Web, j'ai trouvé une vidéo en 3 minutes sur les enjeux de cette élection dans le monde. Et je trouve ça bien qu'un journal fasse des choses comme ça. Ce sont des nouvelles écritures. Hein. Qu'un journal comme Le Monde fasse des vidéos comme ça, c'est une collection de vidéos qui s'appelle Comprendre en 3 minutes. On voit une explication ici. Les vidéos explicatives qui composent la série Comprendre en 3 minutes sont produites par le service vidéo vertical du Monde, diffusé en premier lieu j'adore, sur les plateformes telles que TikTok, Snapchat, Instagram et Facebook. Elles ont pour objectif de remettre en contexte les grands événements dans un format court et de rendre l'actualité accessible à tous. Voilà, c'est cool. Allons. Ben moi, je consomme pas ce genre de truc, j'aime bien regarder papier, mais j'aime bien la démarche, alors on va la regarder 3 minutes sur les enjeux de cette élection pour qu'on comprenne pourquoi tout le monde en parle et pourquoi c'est si important. Ah, d'accord, ok, c'est vraiment vertical, quoi, faut laisser comme ça. Bon, ok. Vous êtes prêts? Pardon au monde pour piquer leur contenu là ce matin, mais en vrai, c'est hyper bien fait, donc je voulais le mettre en avant.
Au droit depuis 16 ans. Le 12 avril prochain. Lui, c'est Viktor Orban, premier ministre hongrois depuis 16 ans. Le 12 avril prochain, il pourrait être battu par un homme longtemps inconnu qui a rompu avec le parti d'Orban en 2024, Peter Magyar.
Et ces élections sont très suivies, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Ukraine ou en Russie. Voici pourquoi.
D'abord parce que Viktor Orban, c'est le champion des nationalistes européens. Depuis 2010, il a mis en place en Hongrie un système qui affaiblit les contre-pouvoirs, notamment en limitant l'indépendance de la justice, des médias ou encore en entravant le travail des ONG.
À quoi il faut ajouter un fort rejet de l'immigration, ainsi qu'une attaque des droits des minorités sexuelles et de genre.
Orban qualifie ainsi lui-même la Hongrie de « démocratie illibérale », c'est-à-dire un régime qui continue de reposer sur des élections, mais sans respecter pleinement l'état de droit, le rôle du Parlement ou les droits fondamentaux, notamment dans son traitement des demandeurs d'asile.
Certains observateurs vont plus loin en parlant d'un régime semi-autoritaire.
La Hongrie est ainsi devenue ces dernières années un point de ralliement pour l'extrême droite européenne, mais aussi un point d'appui pour des soutiens de Donald Trump qui cherchent à ancrer et diffuser leur vision du monde en Europe.
La défaite de Viktor Orban serait donc un coup dur pour l'extrême droite européenne ainsi que pour le camp de Donald Trump qui mise beaucoup sur lui.
Jusqu'à envoyer son vice-président sur place à quelques jours des élections.
A l'inverse, en Europe, beaucoup l'espèrent.
Aussi parce que Viktor Orban s'est imposé comme le principal allié de la Russie au sein de l'Union européenne. Ami revendique.
Le mec est fort, hein, parce que c'est le pote de Trump et de Poutine. Hein. Dans ta gueule, Trump, quand même, là. Hein.
Qui est de Vladimir Poutine, avant l'invasion de l'Ukraine en 2022, il s'est depuis démarqué de la ligne européenne de soutien à l'Ukraine.
Et il est régulièrement soupçonné de jouer le rôle de relais des intérêts russes au sein des institutions européennes.
Ces critiques ont été renforcées peu avant les élections, avec la fuite d'un échange entre les ministres des Affaires étrangères hongrois et russes. Dans cet enregistrement, la Russie demande l'aide à la Hongrie pour retirer la sœur d'un oligarque russe de la liste européenne des personnes sanctionnées. Et son nom a effectivement été retiré à la demande de la Hongrie.
Alors, est-ce qu'une défaite de Viktor Orban marquerait un vrai tournant sur ces sujets ?
Les positions de son rival Peter Magyar, un conservateur pro-européen, invitent à la prudence. Au Parlement européen, il a souvent voté avec le Fidesz, le parti d'Orban, contre l'aide à l'Ukraine, et a affirmé durant la campagne qu'il n'avait pas non plus l'intention de livrer des armes à l'Ukraine. Sur l'immigration, Peter Magyar se montre aussi en accord avec la politique ultra-restrictive menée par le gouvernement sortant. Quant au respect des droits LGBTQI+, Peter Magyar évite à ce stade de prendre une position claire sur le sujet. Il faut dire qu'au départ, Peter Magyar est issu des hautes sphères du pouvoir dans l'administration Orban. Il s'en est détaché en février 2024, dénonçant la corruption du régime et fondant dans la foulée son parti politique. Il remporte un premier succès aux élections européennes de 2024. Conservateur, il promet aux Hongrois de lutter contre la corruption, mène campagne sur la situation des hôpitaux et promet de récupérer les milliards de fonds européens que l'UE bloque en raison d'atteinte à l'état de droit.
Depuis 2025, les sondages de son parti le tissent gagnant face à Viktor Orban, une première pour le Premier ministre en place depuis 2010 et réélu trois fois depuis.
Propre, hein ? Alors moi, c'est en 5 ans de revue de presse sur Twitch, c'est la première fois que je fais ça. J'aime pas m'approprier le travail des autres. J'aime bien lire des bouts d'articles pour éclairer une actualité. Bon, là, on a regardé une vidéo ensemble, mais je voulais rendre hommage à la qualité de ce travail, puisqu'en 3 minutes, le journaliste, là, du Monde nous a fait quand même une explication extrêmement claire du truc quoi. Donc bravo à vous et maintenant on va aller plus loin. Ça donne un contexte, voilà, ça donne tout le contexte. Il y a plein de gens ici qui n'avaient aucune idée de ce qui se passe en Hongrie ou de ce qui se passait en Hongrie. Et là je pense que ça nous a bien éclairé. Maintenant on va aller plus loin avec Le Monde toujours. Hop, avec par exemple cet article ici, voilà, avec les résultats. La Hongrie célèbre donc son retour en Europe après la sévère défaite électorale de Viktor Orban. Le parti de son rival Peter Magyar, donc j'ai entendu qu'on disait Peter et pas Peter dans la vidéo à l'instant, Tisza a obtenu plus de 53% des voix aux législatives, loin devant le Fidesz du Premier ministre, donc Orban, qui en décroche à peine 38%. Donc là, les résultats bruts qui sont tombés donc cette nuit. Ah, et on a un papier derrière avec la fête manifestement dans les rues de Budapest, la capitale. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Les Russes à la maison ont crié des dizaines de milliers de Hongrois. Voilà, souvent jeunes et ivres. Hein ? De bonheur, retour chariot, qui ont spontanément envahi les rues de la capitale pour célébrer la lourde défaite de Orban aux législatives après 16 ans de pouvoir. Hein ? Oui, Kling Kling, on a vu, oui. Tu as déjà posté ce message tout à l'heure, oui. Je lis tous les messages, hein, c'est pas la peine de reposter. Kling Kling nous dit « Ça me fascine de voir les différences entre l'Occident et mon pays actuel, la Chine. Chez nous, ce mec ferait office d'amateur vu ce qu'on a au pouvoir. » Oui, alors. Oui, il y a toujours pire. Hein. Y a toujours pire. Après, on peut aller en Corée du Nord aussi. Oui. En disant « Ah non, mais c'est pas si grave. C'est pas... Non, mais c'est pas si grave. Chez moi, c'est pire. » Oui. Mais en fait, non. Ça marche pas comme ça. Non. On en va... Tu vois ce que je veux dire? Y a pas une. On va pas dire que c'est OK parce qu'il y a un endroit du monde où c'est encore pire, quoi. Y a quand même des gens qui vivent ça au quotidien, quoi. Donc, des dizaines de milliers de manifestants, 16 ans d'extrême droite au pouvoir et autant d'années de recul démocratique, Budapest n'était que bruit de klaxons, embrassades et beats. Hein, beats de musique électronique. Voilà, on va pas faire une tier liste des dictateurs ce matin. Cette élection qui s'était transformée en vaste référendum pour M. Orban et sa diplomatie pro-russe, donc ça on l'a bien compris grâce à la vidéo, s'est terminée par une victoire historique de son adversaire conservateur et pro-européen. Donc ça, pour l'Union européenne, c'est une bonne nouvelle. Donc Péter Maghiar. Tous les Hongrois sentent dans leur cœur que cette victoire, elle signale que la Hongrie est de retour en Europe et que la Hongrie va être un allié solide de l'Union européenne. Dans l'actualité récente, il y avait notamment un paquet d'aide pour l'Ukraine décidé par les Européens qui était bloqué par Orban. Voilà. Donc, du côté de l'Ukraine, c'est une très bonne nouvelle, hein, ces élections en Hongrie. Alors, je vous passe tous les propos de manifestants dans la rue, hein, comme cette maman comptable qui se dit de nouveau fière d'être hongroise, par exemple. Selon les résultats calculés sur 99% des suffrages dépouillés, donc on est sur une info qui semble assez fiable, la formation de M. Maghiar, Tisza, a remporté plus de 53% des voix, 38% pour le Fidesz de Orban. Ok, donc on a une projection sur le nombre de sièges. Donc le vainqueur va avoir une forte majorité à l'Assemblée, voilà, ce dont rêverait l'exécutif français. Ce dont rêve le futur exécutif français en 2027, mais ça, c'est une autre histoire. Ce résultat est d'autant plus spectaculaire qu'il intervient après une participation record de près de 80% des électeurs, parce que une victoire avec une faible participation des électeurs, c'est toujours un petit peu embêtant. Là, vous avez une grosse participation. Du jamais vu, même depuis la chute du communisme. Vous avez donc écrit l'histoire de la Hongrie, a célébré M. Maghiar, donc 45 ans, la vidéo le disait, ancien du Fidesz, donc ancien du parti d'Orban, qui avait claqué la porte du parti en 2024, donc c'est pas si vieux, hein, c'était il y a un an, deux ans, critiquant la corruption endémique dans l'entourage du Premier ministre avant de fonder son propre parti. Et comme le disait MMG bien joué dans le chat, grâce à cette super majorité qu'il a à l'Assemblée, il va être en capacité de modifier la Constitution. Voilà. Avant de devenir Premier ministre dans les prochaines semaines, donc une histoire de passation de pouvoir, il aura les mains libres pour rétablir l'état de droit, sa principale promesse. Je comprends à travers cet article que la Constitution avait été modifiée sans doute par Orban et que les libertés avaient dû en prendre un coup. Dès dimanche soir, il a d'ailleurs demandé au président de la République, président de la Cour des comptes, président du Conseil constitutionnel, président du Conseil de l'audiovisuel de démissionner, autant de proches de Orban qui se sont illustrés ces dernières années par leur complicité dans les reculs démocratiques infligés à ce pays d'un peu moins de 10 millions d'habitants. Voilà. Et il a promis de rétablir tout de suite après leur départ. Vous parlez, oui, les droits LGBT notamment, mais pas seulement, ouais. La liberté des médias, tout ce que vous évoquez est juste dans le chat. Les libertés individuelles. Et le mec est de gauche au moins. Ah non, non, a priori, c'est un conservateur. C'est aussi un conservateur. Voilà. Donc, il a promis de rétablir après leur départ de véritables contre-pouvoirs. Alors Orban a reconnu cette défaite, ce qui en soit une bonne nouvelle. Hein, parfois, il y a des chefs d'État conservateurs, ou, enfin de tous bords d'ailleurs, ou illibéraux. Trump, n'oubliez pas que Trump n'a jamais accepté sa défaite à la présidentielle précédente. Je vous rappelle qu'il a laissé ses partisans marcher sur le Capitole. Donc, un président qui sortant qui reconnaît sa défaite, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle. Cette campagne électorale a tourné au cauchemar pour Orban, qui avait concentré tout son message sur les attaques contre l'Ukraine et son président Volodymyr Zelensky, tentant visiblement de répéter son succès de 2022 lorsque la peur de la guerre qui venait d'éclater en Ukraine lui avait permis de remporter une large victoire. Il s'est enferré dans cette stratégie purement géopolitique jusqu'à multiplier les messages pro-russes en oubliant que les électeurs hongrois, dans leur grande majorité, étaient surtout préoccupés par la situation économique morose et l'inflation dans le pays. Magyar, donc le nouveau futur Premier ministre, est apparu comme un vent de fraîcheur avec son allure sportive et son visage de gendre idéal. Oui, bon, ça c'est le rappel qu'en politique, la forme joue aussi. Cet ancien haut cadre de l'appareil d'État, hein, qui a longtemps été marié à l'ancienne ministre de la Justice de M. Orban, a réussi à rassurer les déçus du Fidesz en leur promettant d'être... Alors quelqu'un me disait tout à l'heure, mais il est de gauche ? J'ai dit non, c'est un conservateur. Et quelqu'un m'a répondu, il est de centre-droit. Alors c'est pas ce que dit la presse. Hein. En leur promettant d'être aussi conservateur que le pouvoir sortant sur les questions d'immigration, par exemple. Centre-droit, non, ça, on reste à droite. C'est juste qu'il est plus pro-européen, moins anti-liberté individuelle, moins pro-russe. Voilà. En parallèle, d'ailleurs, c'est ce qui explique son succès aussi, il a attiré les électeurs de gauche, épuisés par la division des partis d'opposition traditionnels et prêts à voter pour n'importe qui pouvant les débarrasser de l'extrême droite. Il y a quelqu'un dans le chat qui me dit « c'est Retailleau ». Oui. En plus jeune. Je continue à lire l'article. Alors, soulagement de beaucoup de Hongrois et de Hongroises, mais soulagement européen aussi. Alors que, je vous le disais, Orban bloquait depuis des semaines un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Hein, et l'Union européenne était OK. Il y avait un pays qui bloquait, c'était la Hongrie. Voilà. Donc, pour l'Europe, pour l'Ukraine, c'est une bonne nouvelle. Salué d'ailleurs par le président Macron. Félicitations de Londres, de Berlin, de Madrid, même de Rome. Je dis même de Rome parce que Giorgia Meloni... la présidente du Conseil italien a un passé, vous le savez, d'extrême droite, jeune, voilà. Alors, au pouvoir, elle s'est montrée beaucoup plus, comment dire, pragmatique. Hein, je vous rappelle qu'à la tête de l'Italie, elle a quand même signé un plan pour, comment dire, pour être très précis, pour... sur l'immigration, je voudrais être très très précis. Attendez, je vais... Pardon, il y a des sujets comme ça où il faut être précis. Oui, régulariser, mais justement, je voulais être sûr, parce que comme Mélanie, immigration, notamment donner les chiffres, je crois, on parlait de quoi, 500 000, c'est ça ? Immigration... Ah, c'est ça, ouais. On essaie de trouver une bonne source. Propre. Les Échos, 1er juillet 2025. Voilà. Mélanie, c'est quelqu'un qui a décidé d'ouvrir les portes à 500 000 travailleurs étrangers supplémentaires. Alors qu'elle n'a pas vraiment été élue sur ce genre d'idée. Voilà. En 5 ans, la coalition des droites, à la tête de laquelle vous avez Madame Giorgia Meloni, aura fait venir près d'un million de travailleurs extra-communautaires. Pour répondre aux pénuries de main-d'œuvre en Italie, le dispositif très bureaucratique considéré comme une machine à créer des migrants irréguliers, estiment les Échos dans ce papier. Voilà. Alors, si ça vous intéresse, vous pourrez creuser un petit peu l'idée, mais il y a une forme de pragmatisme par rapport aux impératifs économiques du pays. Je reviens à mon article, pardon pour cette parenthèse. Donc, félicitations, y compris de l'Italie. En revanche, ni Vladimir Poutine, ni Donald Trump, qui avait ouvertement soutenu Orban. Donc déjà, le truc qui doit te mettre la puce à l'oreille, quoi. T'as un gars dans une élection européenne qui est soutenu par Trump et par Poutine, pardon, hein, sans faire de l'anti-Trumpisme ou de l'anti-Poutine primaire. Hein. Dans le privé, ils sont sûrement très sympathiques. Hein, tu prends une bière, les gars sont peut-être super sympas, hein, je sais pas. Mais disons que ça doit, à un moment, ça doit te mettre la puce à l'oreille, quoi. Entre le fou du bus américain et le gars qui a décidé d'envahir l'Ukraine, si tu veux, quand ces deux gars se mettent d'accord pour soutenir quelqu'un en Europe, tu te dis, y a peut-être une odeur de moisi quand même. Hein. Donc, ni Poutine ni Trump qui avaient ouvertement soutenu M. Orban, donc Trump, il a quand même envoyé son vice-président sur place, quoi, Jed Evans. N'ont fait parvenir de message. Cette défaite est particulièrement sévère pour Trump, qui avait envoyé. Décidément, pour Trump, il n'y a rien ne va plus en ce moment. Hein. C'est problème sur problème. Qui avait envoyé à Budapest son vice-président pour faire campagne pour le Premier ministre hongrois 5 jours avant l'élection. Ah oui, c'est un autre truc de Trump, ça. Trump, il se mêle de la vie politique européenne régulièrement. Voilà. Alors, il n'a jamais fait mystère que pour lui, ce serait une bonne chose pour l'Europe. Et sans doute pour lui que l'extrême droite arrive au pouvoir dans la plupart des pays européens. Alors, là, si vous doutez de ses propos, cherchez. Un petit crible Google, Trump, Europe, extrême droite. Vous verrez, c'est juste des déclarations de Trump. Hein. Donc là, voilà, à un moment, lui, il trouve normal de faire de l'ingérence dans la vie politique des pays européens. Bon, en même temps, il voulait envahir le Groenland. Donc, est-ce qu'on est très surpris? Et donc, voilà, pour Trump, c'est une défaite. Alors, Le Monde nous propose plusieurs articles, et moi j'ai envie d'aller sur l'édito maintenant, après un petit peu les faits, hein, qui va éclairer un édito. C'est un article où le journaliste donne un petit peu son avis, et là, on va mettre un petit peu de sens dans tout ça, avec la vision du Monde, qui se félicite de cette déroute bienvenue de l'illibéralisme. La petite vidéo définissait tout à l'heure l'illibéralisme. L'illibéralisme, alors selon les politologues, vous allez avoir plusieurs définitions possibles, mais l'illibéralisme, donc illibéralisme collé, c'est un régime qui, par certains aspects, peut ressembler à une démocratie. Par exemple, les élections sont maintenues, voilà, mais qui, dans la pratique du pouvoir, notamment par ses atteintes aux libertés individuelles, se rapproche d'un régime autoritaire, voire d'une dictature. C'est ça, l'illibéralisme. La défaite retentissante dimanche du Premier ministre sortant, après 16 années au pouvoir, dépasse largement les frontières de son pays. Un vote massif, écrit donc Le Monde, a renversé un symbole à Budapest dimanche. 16 années consacrées au verrouillage de la politique hongroise pour le seul bénéfice du Premier ministre Viktor Orban et de son clan ont été clairement rejetées par les électeurs. Et cet échec retentissant dans ce qui a été historiquement le laboratoire européen justement de l'illibéralisme déborde largement les frontières de la Hongrie. Orban, dont la liste des alliés va, qui sont les alliés de Viktor Orban en Europe, du Rassemblement National Français, Marine Le Pen, alors la responsable du RN français, oui, non, c'est... Non, et Jordan, le pauvre. Non, le président du RN, c'est Jordan Bardella. Enfin. Alors, peut-être qu'elle a encore un petit peu la main, mais on verra ce qui se passera après le procès en appel. Donc, va du RN à Netanyahou, le premier ministre israélien, n'est pas isolé dans la déroute. Son revers cinglant déteint également sur la Russie de Vladimir Poutine, à l'égard duquel le gouvernement sortant hongrois n'a jamais été en regard d'une servilité. Donc, quelque part, le RN impacté, quelque part, Netanyahou impacté, Poutine impacté, qui perd un allié, et Trump aussi. Elle touche encore plus directement l'administration de Trump, qui n'a pas ménagé ses efforts pour tenter de sauver un Premier ministre en perdition, dont la campagne se réduisait à faire de l'Ukraine la source de tous les maux du pays. Récidiviste de l'ingérence électorale, le vice-président J.D. Vance a fait le voyage à Budapest pour rien. Les électeurs hongrois sont restés sourds aux promesses mirobolantes de soutien économique de la Maison-Blanche le 11 avril, qui traduisait surtout sa crainte de voir Viktor Orban soutien de la première heure mordre la poussière. Donc vous avez eu des promesses de soutien de Trump à la Hongrie, dans l'hypothèse où Orban était réélu. C'est une dinguerie. Voilà. Ça, c'est le nouveau futur Premier ministre. Monsieur Peter Magyar. Voilà. Alors, je vous le disais tout à l'heure, Trump ne fait pas mystère de ce soutien au parti d'extrême droite européen, et pour ceux qui s'interrogent sur ses propos en disant « Mais Samuel, il exagère, Trump, il ne soutient pas l'extrême droite européenne », ce passage, la stratégie de sécurité nationale, publiée par Trump en décembre 2025, disait, on ne peut plus clairement, que c'est écrit noir sur blanc, hein, que Washington compte sur des affidés, des alliés, tels que le dirigeant hongrois, pour corriger la trajectoire de l'Europe, c'est-à-dire la mettre en panne une fois pour toutes. Évidemment, plus les Européens sont divisés, plus les pays européens sont dirigés par des pays nationalistes qui disent le pays avant tout, surtout pas l'Union européenne, plus un pays comme les États-Unis tire son épingle du jeu. Il est plus facile de peser sur un pays isolé, sans alliés, que sur l'Union européenne. Mais ça, on le sait depuis toujours. Exactement, moins l'Europe a de puissance. L'influence croissante des partis patriotiques européens. Donc, partis patriotiques européens, bon, traduisez comme vous le voulez, c'est ce qu'on appelle l'extrême droite. Vanté à cette occasion par... C'est comme ça qu'il se présente, en tout cas, hein. Vanté à cette occasion par l'administration américaine, a subi un... Comme s'ils avaient le monopole du patriotisme, d'ailleurs. Je ferme la parenthèse. A subi un coup d'arrêt dimanche, bien implanté à Budapest, la nouvelle internationale réactionnaire à l'œuvre de part et d'autre de l'Atlantique ne peut que prendre acte du rejet de l'une de ses principales figures de proue. Voilà. Il est entendu que ce désaveu ne signe certainement pas la fin d'un national-populisme toujours prêt à s'ouvrir aux influences extérieures, qu'il s'agisse de la Russie ou de la Chine, tout en stigmatisant les prétendus diktats de Bruxelles. Mais cette défaite prouve que cette vague... Vous savez, on entend ce discours souvent, hein, dans les journaux, dans les éditos, sur les réseaux sociaux, ou dans la rue, au café, ou parmi vos proches peut-être. Cette défaite prouve que cette vague à laquelle il faudrait se résigner, quelles que soient les incohérences, les hypocrisies et les contradictions des programmes qu'elle inspire, hein, en mode « Ah, mais on les a pas essayés, ceux-là » et eux aussi, il faut leur donner leur chance, n'est pas une fatalité. Outre son illibéralisme, ce national-populisme a produit en 16 ans en Hongrie une inflation massive, une corruption galopante et une collection de mauvais classements au sein de l'UE en matière de richesse par habitant. La sanction était inéluctable, elle est bienvenue. Point, retour chariot, fin de l'édito. Voilà. Pas mal. Voilà. Je suis content parce qu'on est sur une actu super chaude, voilà. Qui vient de tomber. Et grâce à ces articles de qualité, ici dans le monde, je pense qu'on a réussi à comprendre l'histoire. Je vous lis et on enchaîne. C'était l'avenir de l'UE qui est en jeu. Alors, Atom me dit « Je réside en Hongrie depuis plusieurs années. » C'est toujours intéressant de voir quelqu'un qui est dans le pays dont on parle. J'étais aux célébrations de Tissa et Magyar Peter hier. Quelle soirée, c'était incroyable à vivre. Toutes les générations, surtout les jeunes, étaient là pour célébrer ensemble. Trump me souligne, mon ami défécateur officiel dans le chat, se dirige vers une défaite lui aussi aux élections de mid-term. Donc c'est une élection de mi-mandat dans quelques mois aux États-Unis. Tout cela montre que le populisme ne peut durer qu'un temps. Il y a Curie Soupi qui me dit « Salut Étienne, je suis en Hongrie et il fait beau. » Je vous lis. Il se passe quoi s'il perd au midterms? Pas grand-chose en fait. C'est juste qu'il sera un peu empêché, quoi. Il sera un peu empêché. De toute façon, comme il fait assez peu de cas du Congrès, hein, je vous rappelle que les conflits militaires qu'il a lancés, normalement, ont dû être autorisés par le Congrès. Il s'en fout comme de sa première chemise. Donc, il y a des choses qui ne changeront pas. Après, au niveau du vote des lois, par exemple, il va être encore plus freiné qu'il n'est déjà, quoi. Déjà freiné par la justice américaine, hein, qui a pris plein de décisions pour annuler pas mal de ces mesures, mais là il sera plus gêné, plus empêché, quoi. À moins de supposer, mais je n'y ai jamais cru, au vote d'une procédure de destitution, d'impeachment, pour le virer de la Maison-Blanche. Mais ça n'est jamais arrivé une seule fois dans l'histoire des États-Unis. Donc, on pourra en parler pendant des heures, mais je pense qu'on perd notre temps. Voilà. Si un jour ça se précise, si un jour une nouvelle procédure de destitution est déposée contre Trump, puisqu'il y en a eu d'autres dans le passé, et qu'elle a une chance, même infime, de passer, je vous en reparlerai. Mais à ce jour, je n'y crois pas. Ah, cool, Bartenzing. Je voudrais te remercier, Samuel. J'ai passé 5 mois en road trip en Nouvelle-Zélande et grâce à toi et à ton émission, j'ai pu rester informé sur ce qui se passait dans le monde et en France. Trop, merci. Je vous lis, hein. Merci Anthony pour ton message très intéressant. Je te signale juste que Twitch estime que tu es soupçonné de contournement de bannissement de compte. Donc merci pour ton premier message qui n'est peut-être pas le premier. N'hésite pas à prendre un autre pseudo. On l'enchaîne? Maintenant, du Trump. Voilà. Alors, Trump, je ne sais pas si. J'ai presque envie de mettre ça. Sur YouTube, on peut. Parce qu'il y a toujours des petits passages qu'on met sur YouTube. Ouais. Il y a toujours des petits messages qu'on met sur YouTube. Et là, on voulait mettre Trump, mais je ne sais pas si je mets Trump se prend pour le Messie. Ou si on met aussi Trump ordonne le blocus du détroit d'Ormuz. Ouais. Je me demande si ça fait pas trop. Ouais. Oh, les deux? Allez, on met les deux, c'est parti. Ok, let's go. Allez, on met les deux parce que c'est lié en plus, c'est lié. C'est lié en plus. L'histoire du Messie et du pape, c'est lié. C'est lié à l'Iran. Donc, allez, c'est parti. On fait ça. Il s'en fout comme de sa première chemise, dont vieille expression que j'ai utilisée tout à l'heure. Il y a eu un sondage dans le chat que j'avais pas vu. Illégal en 2026. Il est en cours le sondage, hein. Vous pouvez voter. C'est en haut du chat. C'était OK au 14e siècle. J'aimais bien ma première chemise. Arrêtez de vous foutre de la gueule de l'âge du streamer, s'il vous plaît. Vous n'avez aucun respect pour les personnes âgées, hein. Il y a une espèce de guerre des générations qui est en train de se mettre en place dans notre pays. Et moi, à ces petits jeunes qui se moquent des vieux ici, je dis avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect, allez vous faire foutre. Alors, c'est parti. 3, 4. Amis YouTube, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que ce début de semaine se passe bien pour vous. On est en live sur Twitch tous les matins pour la revue de presse. Et puis chaque jour, on met une actu de côté pour nos amis de YouTube parce qu'on vous aime beaucoup aussi. Et on voulait vous parler de Trump ce matin. Vous voyez qu'on a démarré le sommaire par les élections en Hongrie. Mais à Trump, chaque jour. Un nouvel épisode, c'est une série assez fascinante. Et on voulait vous montrer plusieurs actus. D'abord, une qui concerne le détroit d'Ormuz, hein, au cœur de la guerre en Iran. Et une deuxième qui nous parle de Trump qui se prend pour Jésus, pour le Messie, avec un montage assez étonnant. Et des critiques du président américain contre le pape. Voilà. Mais c'est aussi lié à l'Iran. C'est parti. D'abord, concentrez-vous bien, parce que là, c'est un peu compliqué. Ah, c'est rien. Problème technique. Mathieu, il faudra faire un petit point de montage. Je viens de perdre la tablette, mais on va corriger ça en 2-2. Oui, allez, on corrige en 2-2. Voilà. Mathieu, tu auras un petit point de. En fait, il faut recréer la scène Black Magic, parce que ça arrive. Parfois, elle est un petit peu capricieuse. Périphérique Black Magic. On est sur le périphérique 4. Comme par magie, vous allez voir. Ah non, ça marche pas. Ah, vous devriez. Là, vous auriez dû l'avoir, là. Ah, c'est bon. Ouais, j'aime pas trop ce que je vois quand même. Ouais, c'est un peu instable, bougez pas. Ça fait longtemps que on n'avait pas eu ce petit cette petite truc instable là. Black Magic. La 4. Voilà. Voilà, c'est propre ça. Ah, je reconnais un truc qui marche. Let's go. Voilà. Donc Mathieu, désolé pour le petit mois de montage. Et vous voyez, on s'est interrompu quelques secondes seulement. La maîtrise technologique du vieux streamer est impressionnante. N'hésitez pas à sub. Merci Tam Poulet. Merci Solbur. Merci un jus de coco, pourquoi pas. Merci Arnaqueur. Merci Monsieur Fred Bull. Monsieur Pistelu. Merci pour tous ces subs que je n'ai pas vus. C'est reparti. 3, 4. On commence par cet article dans Le Parisien. Alors, soyez bien attentifs. Soyez bien attentifs parce que c'est un peu bizarre. Rappelez que cette guerre contre l'Iran, voulu par le président américain et par le premier ministre israélien, par Trump et Netanyahou, hein, dont les objectifs de guerre sont un peu flous, a notamment provoqué le blocage du détroit d'Ormuz, hein, par l'Iran, qui dit: Ok, moi j'ai pas les moyens d'aller taper les États-Unis, mais j'ai les moyens de taper les pays du Golfe et j'ai les moyens aussi de bloquer les détroits d'Ormuz, avec les conséquences sur le trafic du pétrole, du gaz naturel liquéfié et sur l'économie mondiale. Ok, tout le monde a ces infos. Alors, il se trouve que quelques bateaux passent quand même. Quelques bateaux avec l'accord, l'aval de l'Iran, en disant ce bateau-là, il peut passer. Ok? Et là, des négociations viennent de se tenir entre l'Iran et les États-Unis, hein, après un cessez-le-feu qui devrait durer 15 jours, et ils se sont mis d'accord sur rien. Qu'est-ce qu'a décidé Trump? De bloquer le détroit d'Ormuz. Et là, vous me dites quoi? Donc, pour débloquer le détroit d'Ormuz, du coup, il décide de bloquer le détroit d'Ormuz? Oui. Désolé. C'est pas moi, c'est Trump. Donc, Trump ordonne un blocus naval du détroit d'Ormuz. Et vous ne rêvez pas, c'est l'actu. Donc, il a décidé de bloquer le détroit déjà bloqué. Pour mieux le débloquer. Ou pas, on ne sait pas, on va voir. C'est Trump. Les deux camps ont donc échoué ce week-end à trouver un accord pour mettre fin à la guerre, butant notamment sur la question du nucléaire. Le président américain entend maintenir la pression. Waouh. Quelques heures après l'échec des négociations entre l'Iran et les États-Unis, Trump a ordonné dimanche un blocus naval américain du détroit d'Ormuz. C'est pas une invention de Samuel qui boit trop de café. Une réponse au refus, dit-il, intransigeant de l'Iran de renoncer à ses ambitions nucléaires lors des pourparlers de paix qui se sont tenus à Islamabad, puisque c'est le Pakistan qui essaye de trouver enfin, de rapprocher les belligérants pour trouver une solution de sortie au conflit. Les discussions commencées samedi ont duré plus de 20 heures, au terme desquels les deux camps ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre, laissant même planer un doute sur le respect de la trêve conclue le 8 avril, le cessez-le-feu de 15 jours. Le vice-président Jed Evans, puisque c'est lui qui a été envoyé pour représenter les États-Unis à ces négociations, est rentré aux États-Unis dimanche, après avoir fait, selon lui, une offre finale la meilleure possible à l'Iran. On a l'impression qu'on est en train d'acheter une voiture. Allez, c'est mon meilleur prix, hein. Allez. Là, je ne peux pas descendre en dessous, hein. C'est un peu la diplomatie à la Trump, quoi. The Art of the Deal, il a écrit un livre là-dessus, quoi. C'est du deal. La politique, c'est du deal. Allez, allez, c'est mon dernier prix. Remballez, c'est pesé. Il y en a un petit peu plus, je vous le laisse. Voilà. Donc, son offre finale est la meilleure possible à l'Iran. Sauf que le président du Parlement iranien a critiqué ses interlocuteurs, incapable, dit-il, de faire gagner la confiance de l'Iran lors de ces discussions. Dans la journée, le président américain, qui pendant ce temps assistait à des combats de MMA. Et là, je viens de me dire, Samuel, arrête. On sait bien que t'es pas fou de Trump. Ça, tu l'inventes. Hein. Trump n'était pas en train d'assister à des combats de MMA aux États-Unis pendant que les autres discutaient à Islamabad. Si. Désolé. Vous trouverez les images sur Internet. Voilà. Dans la journée, donc une fois qu'il avait assisté à son truc, le président américain a pris la parole sur son réseau social, Truth Social, tout en affirmant que les pourparlers au Pakistan s'étaient bien déroulés et que la plupart des points avaient fait l'objet d'un accord. Donc ça, c'est dans la manière dont Trump vit ses actions, qu'elles soient économiques, entrepreneuriales ou politiques, toujours dire que ça se passe bien, toujours dire que ça marche bien, toujours dire qu'il a gagné, c'est un truc qu'il a théorisé aussi. Voilà. Donc, la plupart des points ont fait l'objet d'un accord, mais Trump déclare que Téhéran a refusé de céder sur la question du nucléaire, et avant d'ajouter que les États-Unis allaient entamer un processus de blocus. Voilà. Alors dans ses tweets, Trump, il aime bien mettre en capital les mots importants. Blocus ! Tout le monde est réveillé ? De tous les navires tentant d'entrer ou de sortir du détroit d'Ormuz par lequel transite une partie du pétrole, du gaz et des engrais mondiaux. Voilà. Voilà. Tout Iranien qui nous tire dessus ou qui tire sous des navires pacifiques sera pulvérisé ! A-t-il averti, laissant entendre que d'autres pays seraient impliqués sans toutefois les nommer. Voilà. La réponse des gardiens de la révolution iranienne ne s'est pas fait attendre. Sur X, ils ont affirmé avoir entièrement sous contrôle le trafic dans le détroit et ont menacé d'y pléger leurs ennemis dans un tourbillon mortel. Voilà. Voilà. Tout va bien. Bon, je vous passe l'interview. Je vous passe l'interview d'un spécialiste des enjeux navals dans le Parisien qui nous dit que c'est une violation du droit international. C'est-à-dire que Trump qui dit « je vais bloquer totalement le trafic du détroit d'Ormuz parce qu'il est bloqué, ok, mais il y a des bateaux qui passent et ça, c'est pas ok ». Ça, c'est une violation, bien sûr, du droit international qui va impacter l'économie de la planète et notamment, pour ce qui nous concerne, des pays européens. Mais bon, vous allez me dire « bah oui, mais l'Iran aussi ». Oui, bien sûr. C'est aussi une violation du droit international. L'Iran qui bloque le droit d'Ormuz, c'est une violation du droit international. Mais Trump qui dénonce cette violation du droit international, du coup, viole le droit international pour... Je sais pas, ne me donnez pas pourquoi, parce qu'à un moment, je comprends plus, moi. Libération sur le même sujet. Qui revient sur les négociations, voilà, et qui constate effectivement que les deux parties se sont séparées sans trouver d'accord. Donc là, je ne redonne pas toutes les infos. Je crois qu'on les a, vues dans le Parisien. Mais il y avait des détails dans l'article qui m'intéressaient, que je suis en train de rechercher. Voilà, c'est la fin du papier. Il semblerait que l'idée de génie de Trump pour ouvrir le détroit d'Ormuz consiste en fait à le fermer davantage. Moi, à un moment, je ne peux plus vous expliquer les trucs. Hein. Là, c'est plus de mon ressort, moi. A ironisé sur X, le chercheur Hamid Reza Azizi du German Institute for International and Security Affairs. Cela peut bien sûr exercer une pression sur l'Iran à long terme, mais les répercussions à court et moyen terme sur l'économie américaine et mondiale risquent d'être bien plus importantes. Après, c'est pas parce que Trump dit qu'il va bloquer les trous dans mousse qu'il va le faire. Hein. Ça, c'est autre chose, mais bon. C'est ce qu'on appelle le phénomène taco. Trump always chicken out. Out sans S. Trump se dégonfle toujours. Depuis le début du conflit, l'Iran... profitant de son contrôle sur le détroit, a pu continuer à expédier son pétrole, contrairement aux autres producteurs de la région. C'est ça que Trump veut arrêter aussi. Hein. S'il ne peut plus le faire, Téhéran pourrait tenter d'empêcher d'autres acteurs comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis de vendre leur pétrole en contournant le détroit d'Ormuz. Pour Dany Citrinovitch de l'Institut d'études sur la sécurité nationale, un groupe de réflexion associé à l'Université de Tel Aviv, l'escalade semble désormais de plus en plus inévitable, d'autant que le président Trump fait considérablement monter les enchères. Pour cet ancien analyste du renseignement militaire israélien, Téhéran mettra probablement à l'épreuve la détermination des États-Unis en prenant pour cible les moyens navals américains tout en tentant de perturber le trafic maritime commercial dans le détroit d'Ormuz. Je résume que ça continue de se tendre, quoi. Voilà. Une telle situation entraînerait une nouvelle flambée des prix du pétrole. Vous savez que les cours du brut ont baissé, hein. Lors de l'annonce des négociations de paix, des pourparlers. Voilà. Mais là, nouvelle tension. Et à la chaîne, une cascade de risques du détroit de Bab el-Mandeb à l'entrée de la mer Rouge jusqu'aux infrastructures du Golfe. Quoi qu'il arrive, nul ne sortira gagnant, dit encore Citrinovitch, seulement plus ou moins perdant. Voilà. On me dit, Ventrèche me dit, le baril de Brent remonte depuis aujourd'hui. MMG confirme, le pétrole a franchi la barre des $100 le baril. Voilà. Alors le problème, c'est que vous savez qu'il y a toujours un petit délai entre le moment où les prix du brut baissent et les prix à la pompe baissent. Voilà. Donc là, les prix du brut ont baissé, mais les prix à la pompe n'ont pas trop baissé parce que tu comprends, au moment où le pétrole a été acheté pour remplir les cuves, il était cher, donc on ne peut pas le baisser là tout de suite. Tu connais. Voilà. Bon. Bon, souvent le problème c'est que ça marche que, oui, ça marche que un petit peu que dans un sens. En général, la répercussion de la hausse du prix du brut sur à la pompe est un peu plus rapide. Bon, mais bon, on juge pas, hein. Là, il y a un monde où, en France par exemple, ça aura peut-être pas eu le temps de baisser, que ça va déjà remonter, tu vois. absurde. Mais dans quel monde on vit, quoi. Et là, vous allez me dire, c'est fini, Samuel. C'est fini. Trump, là, ça va, on a notre quota de dinguerie pour aujourd'hui. Que nenni. Eh ben, c'est pas terminé. Allez, c'est parti. Deuxième actu sur Trump. Hein. Voilà. Maintenant, il se prend pour Jésus. Allez. Et là, vous allez me dire, là, Samuel, t'inventes encore. T'inventes. Hein. Là, on est avec l'opinion, journal L'Opinion. Et voilà. Ça, c'est Trump qui l'a posté. C'est l'abonnement, ça ? C'est pas mal. C'est Trump qui l'a posté sur son propre réseau social. C'est Trump, c'est Jésus. Enfin, on ne sait plus. Hein. Et manifestement, il guérit des gens, je pense. Voilà. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu cette histoire. Il a posté ça sérieux, oui, je suis désolé. Je sais que c'est trop gros. Je sais qu'on ne veut pas y croire. Je sais qu'à un moment, vous dites je dors toujours. On est dans la nuit de samedi à dimanche. J'ai forcé sur l'apéro, je fais un cauchemar, c'est la revue de presse de Samuel Etienne, le vieux le matin qui me raconte l'actu, là. Et puis à un moment, il me raconte que Trump se prend pour Jésus, mais c'est une blague. Ben non. C'est lui qui a posté ça sur son réseau social, quoi. Voilà. Donc, c'est quoi l'histoire ? L'histoire intéressante derrière, c'est que c'est une critique du pape. À propos de la guerre en Iran. Trump qui nous dit « Je suis pas trop un grand fan du pape. » Voilà. À un moment, quand un président d'une puissance comme les États-Unis parle comme un enfant de 5 ans, des trucs, ah, le mec, je suis pas trop fan du gars, là. C'est quand même problématique. Donc, Trump critique le pape Léon XIV. Pourquoi ? Parce qu'il est opposé à la guerre en Iran. Voilà. Trump a attaqué dimanche 12 avril Léon XIV, premier pape américain, voilà, jugeant sa position critique sur la guerre en Iran catastrophique. Voilà. Léon, qu'est-ce que tu fais, Léon ? Et affirmant ne pas être un grand fan du souverain pontife. Le ton est monté d'un cran entre la Maison-Blanche et le Vatican. Dimanche soir, Trump a vivement critiqué le pape Léon XIV, lui reprochant sa position sur la guerre israélo-américaine contre l'Iran et affirmant qu'il n'était pas un fan du souverain pontife. Waouh ! Oui, comme le dit Xielo dans le chat, on dirait qu'il parle de la dernière saison de Grey's Anatomy. Défécateur me dit, on n'est pas à l'abri qu'il envahisse le Vatican. Oh, comme si Trump pouvait décider de menacer d'envahir un pays souverain. Ah oui, si, il l'a déjà fait. Nous n'aimons pas un pape qui va dire que c'est acceptable d'avoir une arme nucléaire. C'est un homme qui ne pense pas que nous devrions jouer avec un pays qui veut se doter de l'arme nucléaire pour faire sauter le monde. A déclaré Trump dimanche devant la presse avant d'ajouter, je ne suis pas fan du pape Léon. Il est catastrophique en politique étrangère. Oui, jouer, bah oui, n'oublions pas que c'est un enfant de 5 ans. Dans la même séquence, Trump a aussi déclaré qu'il ne voulait pas d'un pape qui critique le président des États-Unis. Mais. Trump, comme son secrétaire à la défense, Pete Hegseth, alors lui aussi c'est un champion, a plusieurs fois invoqué Dieu dans sa communication publique pendant le conflit avec la République islamique. Il y a un monde où Trump va invoquer Dieu pour critiquer le pape quand même. Un moment. Pete Hegseth s'est même allé jusqu'à présenter l'effort de guerre comme soutenu par une volonté divine. Mais normalement, les fous de Dieu, c'est pas dans la République islamique d'Iran. Waouh. Eh ouais, c'est on est en 2026. En s'appuyant sur les évangiles pour le justifier. Allez. Léon XIV, premier pape américain pourtant, s'est opposé à cette lecture. Hein. Et il a dit, ben non, vous ne pouvez pas vraiment dire que votre guerre en Iran est soutenue par Dieu à un moment, quoi. Jésus est le roi de la paix qui rejette la guerre. Nul ne peut utiliser Jésus pour justifier la guerre, a-t-il déclaré. Voilà. C'est ça qui n'a pas plu à Donald. Il n'écoute pas la prière de ceux qui font la guerre, mais de ceux qui la rejettent. Il s'est également montré critique à l'égard de la guerre menée par les États-Unis contre l'Iran, condamnant notamment les menaces visant à la population iranienne comme véritablement inacceptables. Du coup, Trump colère. Hein, il a prolongé ses attaques sur sa plateforme Truth Social, où il y a peu de chances qu'il soit modéré, vu que le réseau social lui appartient. C'est pratique. S'en prenant à Léon XIV sur plusieurs sujets, dont l'Iran, et en évoquant également une prise de position du pape sur le Venezuela, après l'opération américaine ayant conduit à l'arrestation de Nicolas Maduro. Alors, je cite monsieur le président américain, deux points voilà guillemets, malheureusement, le fait que Léon soit laxiste face à la criminalité et aux armes nucléaires ne me convient pas du tout. Hein. Léon devrait se ressaisir en tant que pape. Moi aussi, parfois, je me dis que je vais me réveiller. Hein. Léon, tu dois te ressaisir en tant que pape. Hein. Hein. Faire preuve de bon sens. Alors quand un homme politique vous parle de bon sens, c'est un warning, hein, c'est un red flag. Hein. Quand un homme politique ou une femme politique, à un moment, met les mots bon sens dans un discours, vous savez que c'est une dinguerie. C'est un truc systématique. Nous, voilà. Vous verrez. La prochaine fois que vous entendez un homme politique vous parler de bon sens, c'est qu'il y a une dinguerie derrière. Toujours. Ah, mais c'était du bon sens, enfin! C'est les mêmes qui disent, même quand ils ont été élus à quelques milliers de voix, « Non, mais vous savez ce que les Français pensent ? Vous savez ce que les Français pensent ? Je vais vous dire ce que pensent les Français, moi. » Non, en fait, ne parle pas à ma place, en fait. Tais-toi. Vous savez, les Français, en général, c'est les mêmes. Donc, je reprends Monsieur Trump, « Léon devrait se ressaisir en tant que pape, faire preuve de bon sens, cesser de complaire à la gauche radicale et se concentrer sur sa mission, être un grand pape, pas un politicien. » Cela lui nuit énormément et plus encore cela nuit à l'Église catholique. On est à deux doigts d'entendre Trump, qui n'a pas réussi à avoir le prix Nobel de la paix, tenter de devenir le nouveau pape, hein, pour défendre enfin correctement l'Église catholique. Vas-y Donald, let's go. Le président américain a aussi assuré que sans son soutien, Léon XIV ne serait pas au Vatican. Waouh! Ah, mais ça je ne savais pas. En fait, c'est Trump qui a fait élire Léon. Waouh! Et qu'il aurait été choisi uniquement parce qu'il est américain, ce qui aurait, selon lui, facilité sa relation avec son administration. Trump ne s'est pas arrêté là. Pourquoi s'arrêteront là, en vrai ? Trump ne s'est pas arrêté là. Il a également publié sur Truth Social, donc son réseau, une image générée par IA, le figurant sous les traits d'une figure christique en train de guérir une personne malade. Et là, vous me dites, c'est inventé, c'est faux. Trump ne l'a pas fait, je suis désolé. Il l'a fait. Waouh. Avec des gens avec des casquettes militaires qui le regardent, avec des avions militaires dans le ciel, avec un aigle, de drapeau américain, avec je sais pas ce qu'il y a dans les nuages. Là, je ne veux pas savoir en fait. Voilà. S'il y a une légende ou pas ? Non ? Il y a une légende ? Il a mis une légende ou pas ? La réponse du Vatican est venue du père Antonio Spadaro, sous-secrétaire du Dicaster pour la culture et l'éducation, qui a accusé Trump de s'en prendre à une voie morale précisément parce qu'il ne peut pas la contenir. Ah, il n'a pas mis de légende, c'est juste la photo. C'est peut-être lui la légende. Hein ? Il a estimé que le président américain cherchait à ramener le pape sur un terrain et dans un langage qu'il pourrait dominer, mais que Léon XIV parle une autre langue. Bah déjà, il utilise plus de 10 mots, hein, refusant d'être réduit à la grammaire de la force. J'ai presque envie d'arrêter la revue de presse là-dessus, moi. Amis de YouTube, merci. Pardon, je me suis un peu laissé emporter, mais à un moment, ce monsieur nous rend fou. N'hésitez pas à venir dans la revue de presse le matin sur Twitch. On vous accueillera chaleureusement, on vous paiera le café. N'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo, un petit pouce et même de follow. D'ailleurs, les amis, nous venons ce week-end de passer les 200 000 abonnés à la chaîne YouTube. Oui ? Merci Jésus, merci Donald. Non, nous, c'est vrai. Moi, je suis pas YouTuber, hein, vous savez, je suis streamer. On vient de passer les 200 000 abonnés sur la chaîne YouTube.
Combien ?
200 000. Voilà. Bon, c'est grâce à Mathieu, hein, c'est lui qui gère la chaîne. C'est lui qui fait tout le boulot. Voilà. Donc, amis YouTube, merci à vous. Eh ouais, c'est fou ça en vrai. 200 000. En train de devenir YouTuber ici. Bah, ne me dites pas merci, c'est grâce à vous. Hein. Voilà. Merci, Donald. Voilà. Ok. On enchaîne. Qu'est-ce qu'on en a actu? Ah, ça c'est un peu technique, mais en fait c'est vraiment c'est passionnant. On va aller en France sur le plaider coupable, la réforme de la justice pénale. Ouais. Bonjour Monsieur Étienne, j'attends toujours mon café que vous venez de promettre aux 4957 personnes qui regardent actuellement ce stream. Waouh, merci d'être aussi nombreux. Alors, vous savez que j'aimerais tellement ça. J'aimerais tellement que la technologie nous permette que je vous envoie des petits cafés. Ouais. Genre, tchoc, j'appuie sur un bouton, il y a un petit expresso chez vous comme ça. 4979 expresso. Bam! Voilà. Ouais. À condition d'être abonné quand même, hein, faut pas déconner. Hein. Ça fait un budget quand même. Hein. C'est combien un expresso? Ouais, c'est cher, ouais. Surtout au prix du café parisien, quoi. Ouais, ça va niquer la rentabilité. Mais au moins le faire une fois, quoi, tu vois. Une fois de temps en temps, quoi. Sub tier 3, on peut avoir un petit gâteau avec? Oui. 10 euros? Non, c'est pas 10 euros. Oh, ce matin, je fais pas de pub. Hein. Ce matin, après avoir déposé mes enfants à l'école le matin, tous les matins, ce qui me permet de démarrer à 9h15 du coup, parce qu'en gros, il faut qu'ils soient, je sais pas, à 8h30 de la maison, il faut qu'ils soient 8h50 dernier carat à l'école. Ils sont tous les matins à l'heure, hein, c'est hyper important. Ça c'est cool. Petit coup de métro, papapap. Pour aller au studio, je passe devant une boulangerie, hyper sympa, où je prends un café au lait, tous les matins. Donc ce matin, beaucoup de monde dans la boulangerie, parce qu'elle a beaucoup de succès, ils font plein de trucs super bons à manger. Et donc je fais la queue, hop, je demande mon café au lait. En général, la dame me fait payer avant, tu vois, c'est le process, quoi. Et là, elle me fait pas payer. Et donc, je me mets hop sur le côté, elle me fait mon café au lait, et là, elle se penche vers moi, et elle me dit, il est pour moi. Je me suis fait offrir mon café au lait ce matin à la boulangerie. Là, je me suis senti le client habitué, quoi. Voilà, parce que tous les matins, je passe. De temps en temps, je prends une petite viennoiserie. Mais non, c'est pas de la drague. C'est parce qu'en fait, je suis un client fidèle. Un client fidèle, fidèle par ailleurs. Donc, c'est vraiment pas un plan drague. Et y a pas, non, et c'est juste que c'est une façon de remercier le client habitué, quoi. Voilà, donc c'est... donc là, voilà. Et puis c'est très malin commercialement, parce que moi du coup je me sens un peu redevable, et demain je prendrai un petit croissant en plus, tu vois. Bam, directement dans le bedou. Ouais. Hein? Quoi, tu prends... Attends, quoi? Attends. J'adore. Attends. Quoi, tu prends... Ah ouais, c'est deux fleurs. Quoi, tu prends même l'argent privé maintenant? Argent public, argent privé, je prends tout, moi. Waouh. Non, c'est juste un geste de gentillesse et un geste commercial, parce que je vais du coup je vais derrière je vais je, là, ça donne envie d'y aller encore plus tous les jours, quoi. Rends le café. Alors les rangs l'argent. Alors ces derniers temps, les rangs l'argent se font un peu plus rares dans le chat. Vous savez, les gens qui sont fait abuser par les fake news posté sur internet par le rapporteur de la commission de l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public, monsieur Charles Alloncle. Bon, ouais, le mec se dit, ah, il est député, il doit pas dire n'importe quoi. Hélas. Regardez, il y a même des présidents américains qui disent n'importe quoi. Donc il y a des gens qui se sont fait abuser, et donc ça a donné dans le chat des rangs l'argent. Bon, ils sont moins nombreux parce que j'ai un public de qualité qui sait s'informer auprès de sources fiables. Mais où je voulais en venir? Ah oui, juste vous dire que vous avez raison d'être moins nombreux. Juste par rapport à un truc. Mais on en reparlera. Bientôt. Très bientôt. Et oui, un petit teasing. Bon, sans transition, on va parler de justice. Waouh, cette transition, je ne l'ai pas fait exprès. Cette transition est exceptionnelle et je ne l'ai même pas fait exprès. Parlons donc de justice. Avec ce sujet, la réforme de la justice criminelle souhaitée par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, avec des aspects intéressants, mais des voix s'élèvent pour dire « Ah, en fait, c'est pas fou, ça pose des questions. » Bon. Désengorger la justice criminelle, mais à quel prix, se demande l'Humanité. Je vous ai mis un article dans l'Huma et dans Libération. Non, là, c'est Libé, et après, il y a l'Huma. Alors que l'embolie des tribunaux ne cesse de grandir, et ça, c'est vrai, c'est un constat, nos tribunaux sont surchargés. Hein. Quand quelqu'un porte plainte en justice, ben, pour avoir le jugement, ça prend des mois, ça prend parfois des années. Ça, c'est un constat et c'est vrai. Alors, face à ce constat, Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, présente un texte examiné en première lecture aujourd'hui au Sénat. Ces dispositions divisent magistrats et avocats et font craindre une justice au rabais. Lisons, vous allez comprendre le débat. Parce que sur le papier, ça a l'air OK, en fait. Un article de Chloé Pilorget-Rézouk dans Libération. 6 à 8 ans pour aboutir à un procès, en matière pénale, en matière criminelle. 6 à 8 ans. Mais c'est fou, quoi. D'autant que les spécialistes du droit le savent, pour le criminel, pour la personne qui s'est rendue coupable d'un crime, être condamné autant de temps après, en fait, ça dissout le lien entre la faute et la peine. En gros, si t'es condamné assez vite, bon bah, c'est un travail qui peut se faire psychologiquement de « ok, bon, j'ai merdé, bien, bon, la société m'a jugé, bam ». Mais quand c'est autant de temps après, ça dilue ce lien entre la bêtise et la peine. Quoi. Enfin, la bêtise, le crime et la peine. Donc, mais il n'y a pas que ça. Et là, je viens de parler des accusés, mais une pensée pour les victimes. Que ça peut même dissuader de porter plainte. En disant, oh là là, ça va durer des années. Et des années pendant lesquelles la victime va devoir porter ça. Hein, ne pas savoir ce que la justice va décider. Ne pas savoir si la justice va dire, oui, je vous reconnais comme victime, ou non, ça n'est pas vrai, vous n'êtes pas victime. Ou encore, non, vous êtes peut-être victime, mais nous n'avons pas trouvé des preuves objectives pour vous reconnaître comme victime. Voilà. Et ça dure des années, cette attente. Donc ça peut aussi dissuader les gens de porter plainte. Des accusés qui attendent d'être fixés sur leur sort, libres ou en détention provisoire. Oui, il y a aussi la détention provisoire dans des maisons d'arrêt surpeuplées, hein, parce que tous ces gens qui sont dans l'attente de leur jugement, parfois, sont en détention provisoire. Des victimes qui vivent comme elles peuvent, en espérant enfin être entendues et reconnues comme telles. Si l'embolie de la justice criminelle n'est pas récente, hein, elle touche à son paroxysme. Ces derniers mois, on a même frôlé la libération d'accusés dans des affaires allant du viol aggravé à l'assassinat, faute de pouvoir les juger dans le respect des délais légaux de détention provisoire. Voilà. Avec 6000 dossiers, salut Hugo. Avec 6000 dossiers criminels en souffrance, l'engorgement des tribunaux atteint un point de rupture. Il y a un risque de paralysie des juridictions criminelles, alerté une mission d'urgence sur le thème menée par 4 hauts magistrats et un pénaliste publié l'an dernier. Ces délais à rallonge, confinant au déni de justice et à la maltraitance institutionnelle, ont d'ailleurs valu à l'État français plusieurs condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme. La justice devant être rendue, c'est un principe de droit important dans un délai raisonnable. Aux origines de ce mur des assises, la multiplication des procès dits hors normes, qui mobilisent magistrats et greffiers pendant des semaines, des mois, dans des salles d'audience en nombre insuffisant, mais surtout la libération de la parole, et ça c'est bien d'ailleurs, consécutive au mouvement MeToo. Vous avez de plus en plus de victimes de viols, d'agressions sexuelles, portent plainte, alors qu'à une époque c'était beaucoup plus difficile. Et multiplication de plaintes, multiplication de procédures, qui est venue submerger les prétoires, les cabinets d'instruction depuis longtemps sous-dimensionnés. Voilà. Entre 2017 et 2023, les plaintes pour viol ont augmenté de 152%, on est passé de 16 900 à 42 700. Aujourd'hui, 2/3 des procédures criminelles concernent des violences sexuelles. Voilà. Problème, l'institution judiciaire ne va pas aussi vite que la demande sociétale de justice. De fait, les magistrats observent depuis 20 ans l'abandon systématique de la justice criminelle au profit d'une inversion des priorités avec des politiques gouvernementales concentrant les moyens matériels et humains sur des délits de faible gravité et de gravité intermédiaire. C'est donc, alors, le constat, on vient de le faire, donc on voit bien qu'il y a un problème, et c'est pour répondre à cette urgence que le gouvernement présente donc son projet de loi, sur la justice criminelle et respect de la victime, c'est son titre. Il n'y a pas de justice sans délai raisonnable d'élucidation et de jugement, fait valoir l'exposé des motifs transmis au Sénat où le texte arrive en premier, là, avant l'Assemblée aujourd'hui. Voilà. Et là, on se dit, ah, c'est bien, un texte qui essaie de remédier à ce qu'on vient de décrire. Si les acteurs du monde judiciaire s'accordent sur le constat, la réforme portée par le garde des Sceaux Gérald Darmanin divise. L'Union syndicale des magistrats, l'USM, s'est abstenue de la voter. Le SM, alors le SM c'est le syndicat de la magistrature, a voté contre, et pas autre chose, bande de grigou, et Unité Magistrat Force Ouvrière l'a plébiscité. Vous voyez, selon les syndicats, la réaction n'est pas la même. Quant aux avocats, la profession, qui est d'ailleurs actuellement en grève, prévoit une forte mobilisation aujourd'hui. L'avis de la défenseure des droits, Claire Hédon, considère que certaines dispositions sont de nature à porter atteinte à l'équité du procès et aux droits des justiciables. Donc un constat partagé, mais une solution qui ne serait peut-être pas la bonne, en tout cas selon certains. Parmi les mesures du projet de loi, telles que la légalisation de la généalogie génétique d'investigation ou l'anonymisation des acteurs judiciaires dans les décisions d'open data, la plus discutée et sans contexte, c'est de ça dont on va parler, la création d'une procédure de jugement pour les crimes reconnus, PJCR, communément appelé le plaidé coupable. Le plaidé coupable criminel. Opérant un véritable renversement du paradigme pénal français, elle cristallise toutes les craintes et les critiques. L'idée ouvre la voie à une justice négociée, c'est le Lyon-Zac, sur le modèle anglo-saxon. Hein, quand on voit dans les séries américaines, on voit beaucoup ça. Hein. Même pour les infractions pénales les plus graves. Voilà, c'est MMG dit, est-ce que c'est pas créer une justice à l'américaine? Ben, c'est ce que disent certains critiques. Merci à Carissou. Cette procédure simplifiée qui existe déjà en matière correctionnelle en France depuis 2004, et là ce serait nouveau pour en pénal, vous l'avez compris, reposera sur la reconnaissance intégrale des faits par l'auteur. Hein, ok, oui monsieur le juge, madame le juge, ok, je reconnais les faits, c'est moi qui ai fait ça. Okay. Lequel se verra proposer par le parquet, donc il n'y a pas de procès, une peine limitée aux deux tiers de la peine maximale encourue, ou à 30 ans pour la perpétuité. Donc l'accusé, lui, peut se dire qu'il a intérêt. Voilà, 30 ans plutôt que que perpète, et une peine max qui est à deux tiers de la peine maximale. Voilà. Puis la peine sera homologuée devant un juge, sans débat contradictoire, sur les faits, ni audition de témoins, ni d'experts, ni l'intervention des avocats, etc. À condition quand même, il y a un garde-fou, à condition que ni la défense ni la partie civile ne s'y opposent. Voilà. Tenry me dit à quel moment la défense a son mot à dire. Si la victime, la partie civile s'y oppose, ou la défense, ça ne peut pas se faire. Mais ça pose quand même des problèmes. Autrement dit, existe le procès, le principe fondateur de l'oralité des débats et de leur publicité. L'objectif, on l'a compris, c'est réduire les délais entre la fin de l'instruction et la tenue du procès. Donc en gros, dès la fin de l'instruction, imaginons, moi je sais pas, imaginons, je... Non, si je portais plainte, ce serait pas en matière criminelle, moi. C'est pas un crime. Mais imaginons un jour, je suis victime d'un crime, voilà, il y a une instruction, à l'issue de l'instruction, le procureur estime effectivement que y a eu acte criminel, il propose une peine au criminel, je suis d'accord avec ça, pas de procès, bim quoi. L'objectif, réduire les délais entre la fin de l'instruction et la tenue du procès, mais aussi le temps qui lui est habituellement consacré. Salut Miss Knight, bienvenue. Oh, tu poses tellement de questions, j'ai envie de passer une heure avec toi. Là je vais manquer de temps ce matin, mais reste avec nous, c'est des sujets qu'on aborde quasiment tous les jours. Et pardon de ne pas pouvoir te répondre, je suis avec la réforme de la justice pénale. Donc, réduire les délais entre la fin d'instruction et la tenue du procès, bon, et là on gagne du temps, on gagne des moyens, on économise de l'argent aussi, hein, de l'argent public. Hop. Nous avons absolument... Allez, ça dégage. Hop, excusez-moi, j'ai nettoyé un truc. Voilà. Quelqu'un qui contourne le ban, qui crée des... qui essaie de venir nous voir avec des nouveaux comptes en essayant de nous faire croire qu'il découvre la chaîne. On fait un petit coup de nettoyage pour pas polluer les débats intelligents de 99% des membres de cette communauté. Nous avons absolument besoin de cet outil, défend avec pragmatisme Bertrand Monnet. Alors lui, c'est le président de la Conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires. Une procédure adaptée, allégée, dans le respect du contradictoire, des principes constitutionnels et un souhait pour certaines victimes. À force de vouloir déstocker, simplifier, accélérer, on utilise des remèdes qui ne sont pas bons et on envoie des injonctions contradictoires aux victimes. Portez plainte, faites-nous confiance, mais on ne fera pas de procès. Regrette, à l'inverse, Julie Couturier, la présidente du Conseil national des barreaux. Après, on pourrait dire, si on était un peu l'esprit un peu chagrin, on pourrait dire, oui, les avocats, c'est normal qu'ils soient contre, parce que quelque part, pour eux, ils vont avoir moins de travail, quoi. Pour justifier cette réforme, le gouvernement convoque le concept de victimisation secondaire et l'insoutenable attente subie par les victimes dans les procédures judiciaires. Ça, c'est intéressant. On vient de dire qu'en matière pénale, il faut attendre en moyenne de 8 à 10 ans, c'est ça? Ou 6 à 8, enfin c'est gigantesque. 6 à 8 ans pour obtenir un procès, peut-être que certaines victimes vont se dire, plutôt que d'attendre 6 ou 8 ans, ça peut être bien que la personne soit condamnée tout de suite, quoi. Je n'ai pas cette attente folle qui a déjà duré pendant tout le temps de l'instruction. Pourtant, répond la Fondation des femmes dans un communiqué, la méthode proposée, puisque vous l'avez compris, les deux tiers des plaintes au pénal aujourd'hui, c'est pour des violences sexuelles, la méthode proposée est profondément contraire aux droits fondamentaux des victimes et les sacrifie au nom de la rapidité administrative. Le garde des Sceaux utilise les attentes des victimes pour légitimer son projet. Enfonce l'avocate Karine Durieux-Diebold. Ce n'est pas une sanction sur un bout de papier qu'attendent les victimes. Le moment du procès, le moment du procès est un moment sacré pour les victimes qui ont le sentiment récurrent de culpabilité illégitime. Le procès leur permet de comprendre, donc cette séquence du procès, qu'elles ne sont pas co-responsables de ce qui s'est passé et de remettre les événements dans le bon ordre. Ce procès permet aux victimes de reprendre le contrôle de la situation, insiste cette spécialiste des violences sexuelles. Quant aux mises en cause, comment écarter le risque d'aveu ? Alors là, je prends mon temps parce que c'est un espace intéressant aussi. Quant aux mises en cause, comment écarter le risque d'aveu de circonstances incomplets, insincères, voilà, motivés par la réduction de peine qui est promise ? À partir du moment où l'accusé négocie sa peine, c'est un aveu d'opportunité qui ne lui coûte pas. Il n'est pas dans la conscientisation de l'acte qu'il a commis, hein, il est dans la négociation. Le sens de la peine qui en découle se trouve complètement dilué, estime Denis Salas, qui est le président de l'Association française pour l'histoire de la justice. Le bâtonnier de Paris, Louis de Gaulle, dit aussi « La justice n'est pas qu'un distributeur de peines de prison, elle a aussi un rôle cathartique pour l'accusé, pour la victime, un rôle éducatif pour la société ». Pour les professionnels, un arrangement, ça ne fait pas jurisprudence. Bon, je ne suis pas un spécialiste de droit et de la justice, vous le savez, mais ça me fait penser que de temps en temps, on se penche sur des procès ici. On se penche sur des procès parce que ces procès peuvent durer des semaines, des mois parfois. Et ça nous permet d'en parler et de parler de tous les sujets qu'il y a derrière. Alors là, on parle de violence sexuelle, mais ça peut être plein de types de criminalité. Et c'est une façon pour nous, citoyens et journalistes, de réfléchir à des sujets. Mais si demain ces affaires sont traitées sans procès, il n'y aura pas non plus ce processus de débat, de discussion. J'essaie de comprendre la logique de tout ça. Alors vous avez des hauts magistrats qui soutiennent cette nouvelle procédure malgré tout. Hein. Certains ont suivi Gérald Darmanin jusqu'en Espagne où la réponse juridique contre les violences sexuelles est régulièrement montrée en exemple. Là-bas, en Espagne, on recourt massivement aux plaidés coupables. Alors ça c'est intéressant parce que l'Espagne c'est un pays qui avait un énorme sujet de violences sexuelles faites aux femmes et qui a pris des réformes, pas que celle-ci, hein. Bracelet électronique, truc anti-éloignement, voilà. Des moyens, des réactions. Et l'Espagne a réussi à faire énormément baisser les violences sexuelles. Voilà. Donc l'exemple espagnol est intéressant. Mais c'est pas la seule réforme, mais ils ont mis plein de choses en place. Et j'apprends qu'en Espagne, par exemple, on recourt massivement aux plaidés coupables. C'est la même différence que si je vous montre un poulet de ferme et un poulet en batterie. C'est un poulet, mais ça n'a rien à voir. Balaie la pénaliste Élodie Thuayon-Yvon, qui n'est pas d'accord. Maître des grosses complètes, la France devrait rougir par rapport à l'Espagne, qui a bien plus de juges et de moyens. Donc, du côté des adversaires en France de la réforme, on dit c'est pas parce qu'ils font du plaidé coupable en Espagne, c'est parce qu'ils ont mis beaucoup plus de moyens que nous. On transpose une idée sans prendre en compte l'environnement juridique autour. Darmanin lui défend sa réforme et dit « Le plaidé coupable est un outil supplémentaire, opportunité pour la victime de s'épargner ou non l'épreuve d'un procès, puisque si la victime n'est pas d'accord avec le plaidé coupable, elle a le droit de le refuser. Voilà. » Mais Maître Thuayon-Hubon dit « Pourquoi la victime devrait-elle porter cette responsabilité ? C'est un cadeau empoisonné, une charge mentale supplémentaire. Une fois encore, c'est sur elle que tout repose. » Nombre de professionnels soulignent la difficulté pour la victime à consentir de façon libre et éclairée. Quand on sait qu'opter pour un procès revient à choisir une longue attente, la capacité financière pèsera forcément sur cette décision, s'inquiète un autre avocat. Hein, il y aura celles, les victimes, qui ont les moyens d'aller jusqu'au bout, et celles déjà épuisées par la procédure, exemptes financièrement, qui se verront contraintes d'accepter pour ne pas allonger encore les délais. Hein, une procédure judiciaire, surtout quand elle est longue et que parfois elle est susceptible d'appel, de cassation, etc. Ça prend du temps, mais ça peut prendre de l'argent aussi. Enfin, c'est pas que ça peut prendre, ça prend de l'argent. Au final, Libération estime que l'impact de la mesure devrait être marginal et insuffisant à désengorger les juridictions. À peine 10% des dossiers, peut-être moins. Je lis pas tout parce qu'après on va lire le dossier de l'UMAC qui est très complet aussi. Voilà. Donc là, voilà pour ce que je voulais vous lire dans Libération, et on va aller sur l'humanité. Je vous lis d'abord. Parce que je suis sûr que certains maîtrisent bien plus ce sujet que moi. Alors, merci beaucoup, Kenzo. Attention, quelques détails importants à réunir qui sont un peu épars dans l'article. Il y a des conditions au plaidé coupable. Accord du parquet. Ouais. Pas de violence sexuelle sur mineur. Pas de violence sexuelle aggravée. Accord de la victime, on en a parlé, tu as raison, et crime à victime multiple exclu. Merci Kenzo pour ces garde-fous, c'est intéressant de les citer. Tu as raison. Voilà. Donc pas les délits, alors là c'est une réforme de la justice pénale, mais d'après l'article, depuis une vingtaine d'années, c'est déjà en place en correctionnel. Alors je parle sous surveillance du chat, c'est ce que disait l'article, j'espère que j'ai bien compris. C'est ça. On me dit que c'est ça. Ok. Aux États-Unis, les plea deals, me dit Astia La Vista, donnent énormément de pouvoir aux procureurs. Les avocats disent mieux vaut un procureur clément et un juge sévère que l'inverse, et beaucoup d'innocents plaident coupables pour ne pas prendre de risques. C'est fou ça. Beaucoup d'innocents plaident coupables pour ne pas prendre le risque d'une peine plus lourde, quoi. Oui, mais aux États-Unis, le procureur est élu. Oui, mais bon, l'élection ne garantit pas la qualité. Hein, je pourrais vous. Je pourrais citer des exemples de gens dont la légitimité est sortie des urnes et dont le comportement est malgré tout problématique. On n'aura pas d'exemple ce matin. Lisons le dossier de l'UMA qui veut aller plus loin sur le sujet. Voilà. C'est la une de l'UMA ce matin. Dossier dans l'humanité sur le sujet. Et l'UMA qui parle d'une erreur. L'erreur judiciaire de Gérald Darmanin. Le garde des Sceaux veut désengorger les tribunaux en étendant les peines négociées aux affaires criminelles. Logique gestionnaire qui inquiète avocats et magistrats. Lisons. Alors, je ne vais pas vous lire tout. Je vais vous lire ce qui n'est pas dans l'IB. L'humanité rappelle le constat hein, de l'engorgement des tribunaux. Et l'humanité écrit sur le constat, personne ne contredira le ministre. Hein. La situation est grave, comme en attestent les condamnations régulières de la France pour ces délais raisonnables. Voilà. Récemment, j'ai vu un avocat pour un truc, là, et il m'a dit, mais... vous rendez compte, vous avez raison d'ailleurs, et puis j'ai aucun doute sur notre capacité à gagner cette affaire, mais bon, ça, il faut que vous ayez bien conscience que ça peut durer des années. Je dis oui, pas de problème. Mais donc c'est long la justice, le temps de la justice il est long. Sur le constat, personne ne contredira le ministre, la situation est grave donc. Sur les solutions apportées en revanche, c'est peu de dire que la pilule prescrite par Gérald Darmanin a du mal à passer. Cette réforme veut traiter le symptôme en ignorant la maladie. Analyse l'ancien vice-président de la conférence des bâtonniers, Patrick Lingibé, plutôt que de doter la justice des moyens humains et matériels qui lui font cruellement défaut, hein, on supprime les garanties procédurales qui fondent la légitimité de la décision pénale. C'est la thérapeutique de l'amputation préventive, puisque l'hôpital manque de chirurgiens, supprimant les opérations complexes. Le patient s'en trouvera-t-il guéri? Évidemment, non. Alors c'est intéressant, qui dit ça? Donc je toujours se demander qui nous parle. Est-ce toujours l'ancien vice-président de la conférence des bâtonniers, Patrick Lingibé? J'ai l'impression que oui, il dit quoi? Il dit qu'il s'agit d'une réponse expéditive pour les auteurs et excluante pour les victimes, qui va remettre au centre la culture de l'aveu et donc multiplier les risques d'erreurs judiciaires. Quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure, j'ai pas repris, mais... Dans le chat, mais... Pourquoi on s'emmerde quand quelqu'un est il y a vraiment des preuves accablantes. La personne disait dans le chat ça tout à l'heure. Mais pourquoi on fait un procès? Quand il y a vraiment des preuves accablantes contre quelqu'un, pourquoi on fait un procès? On lui met la peine planchée et walou, et économie de temps, d'argent public en plus, fameux argent public. Voilà. Hein, la personne dit mais quand il est pris sur le vif? Eh oui, mais non. Le problème, c'est que l'histoire de la justice de tous les pays du monde est bourrée de gens qui ont été condamnés, hein, soi-disant pris sur le vif, soi-disant avec des preuves irréfutables, voilà, et on s'est rendu compte des années après que ces gens étaient innocents. Voilà. Bon, on en a des exemples en France, hein, on peut aux États-Unis, un exemple dans tous les pays du monde, qui ont une justice. Voilà. Parce que la justice, c'est plus compliqué que ça. Voilà. Donc, chaque accusé a le droit à se défendre, à un procès, hein, et à des avocats. Donc le « mais quand on est sûr, pourquoi on ne condamne pas directement sans procès ?» Alors c'est, en fait, c'est non. C'est pas possible. Pas dans un état de droit. Et là, la personne nous dit « attention, ça va remettre au centre la culture de l'aveu et donc multiplier les risques d'erreurs judiciaires. » Parce que souvent, dans ces affaires dont on parle de gens condamnés à tort, il y a des aveux. C'est-à-dire que ça, alors le fameux bon sens dont je vous disais quand un responsable politique met du bon sens dans sa phrase, méfiez-vous, il y a forcément une dinguerie derrière. Qu'est-ce que dit le bon sens? Le bon sens, il dit que quand quelqu'un fait des aveux, c'est donc qu'il est coupable. C'est évident. Pourtant, l'histoire des erreurs judiciaires, elle est quasiment composée que de gens qui à un moment font des aveux. C'est-à-dire que sous la pression de l'interrogatoire, des heures, voire des jours d'interrogatoire, ben à un moment, il y a des gens qui disent « ok, c'est moi ». Ne me demandez pas pourquoi, parce que je n'ai jamais été dans cette situation. Mais, et pourtant, on va se rendre compte plus tard, avec l'analyse d'une trace ADN, avec que sais-je, un nouveau témoignage, eh ben qu'en fait, non. Voilà. Donc l'aveu, n'est pas une preuve irréfutable. Or, cette réforme, elle met, dit la personne, l'aveu au cœur de la procédure. Donc, et M. Patrick Lingibé, qui craint que ce dispositif ne produise de nouvelles affaires Patrick Dils, vous l'évoquiez certains dans le chat, du nom de cet apprenti cuisinier de 16 ans, condamné à tort à la perpétuité en 89 pour un double meurtre après des aveux extorqués. Il avait avoué. Il avait avoué. Il était innocent. Autre risque majeur mis en avant, celui d'une justice à deux vitesses, profondément inégalitaire. Les personnes les plus précaires et les moins armées pour appréhender les enjeux d'une négociation pénale seront les plus exposées au chantage à l'aveu, à l'acceptation de peines lourdes pour en finir. Je relis cette phrase doucement parce qu'elle est importante. Les personnes les plus précaires et les moins armées pour appréhender les enjeux d'une négociation pénale seront les plus exposées au chantage à l'aveu. Allez, avouez. Avouez, si vous allez au procès, franchement, vous allez prendre perpète. Si vous allez au procès, vous allez prendre perpète. Voilà. Mais si vous plaidez coupable, vous allez prendre 30 ans. Il y a des gens sans doute, innocents, qui vont se dire, bah moi je prends 30 ans alors. Parce que je ne veux pas prendre perpète. Les personnes les plus précaires et les moins armées pour appréhender les enjeux de négociation pénale seront les plus exposées au chantage à l'aveu. Voilà. Et à l'acceptation de peines lourdes pour en finir, là où les justiciables mieux dotés, mieux conseillés, mieux entourés pourront contester, temporiser, refuser d'entrer dans le dispositif. Ans, c'est perpète. Non. Non. La perpète, c'est avec une, il y a une peine incompressible à partir en dessous de laquelle tu peux pas demander une libération. Mais si la société estime que à l'issue de cette séquence, tu es toujours pas libérable, tu restes en prison. C'est deux choses différentes. Alors, c'est peut-être pas 30, c'est peut-être 22 ou 25 aujourd'hui, mais c'est ça. Ah, voilà, le bon sens qui revient dans le chat. Fredico 80 qui n'a pas voulu écouter ce qu'on vient de dire, notamment sur l'affaire Patrick Dils et l'histoire des aveux. Ce que je voulais dire, Samuel, si quelqu'un tue quelqu'un dans la rue, devant témoin, force de l'ordre, etc., et que là, tu fais un procès qui va durer des mois alors que le fait est accompli, pour certains, c'est pas une question de dictature, c'est juste une question de bon sens. Le fameux bon sens. Toujours dangereux, le bon sens. Voilà. Alors, tu auras peut-être des témoins qui ont reconnu quelqu'un. Il y a peut-être des témoins qui vont dire « Moi, je le reconnais, c'est lui. » Voilà. Et là aussi, des témoins qui ont vu des choses, des témoins qui sont sûrs, il y en a beaucoup. Et puis, on va se rendre compte que finalement, ce n'était pas lui. Voilà. Et qu'il s'est trompé. Voilà. Ouais. Et les faux témoignages, ça existe. Ouais. Ça ne marche pas comme ça. Donc ça, c'est pour les gens poursuivis. Chantage qui ne touche pas seulement les accusés, mais également les victimes. Ce plaider coupable criminel va leur imposer de choisir entre la peste et le choléra, et ce, en quelques jours seulement, dit Maître Karim Durio-Diebold, avocate spécialisée dans l'assistance aux victimes de violences sexuelles. Là, on s'intéresse aux victimes. Elles vont devoir assumer de se passer d'un procès qu'elles souhaitent pourtant, ou attendre de longues années pour l'obtenir. C'est une réforme faite pour économiser des moyens sur le dos des justiciables. Voilà. Réforme qui évacue aussi d'un revers de main la vertu thérapeutique de l'audience. La justice ne se résume pas au prononcé d'une peine, insiste Maître Romain Boulet. Avec ce plaidé coupable, on retire aux victimes les derniers endroits où un pont pouvait être dressé entre elles et les auteurs, et on privilégie une justice secrète, de cabinet, de guichet. C'est un vrai problème démocratique. Je vais vous lire, hein, parce que je vois que le sujet vous inspire et j'en suis bien content. Ce problème est d'autant plus grave qu'il va toucher très majoritairement les dossiers de crimes sexuels. Après la généralisation à tout le territoire en 2023 des cours criminelles départementales pour juger les crimes punis de 15 à 20 ans de prison, en grande majorité des viols, sans jury populaire, le garde des Sceaux propose d'aller plus loin dans cette logique en les rendant compétentes également en appel. Basculement antidémocratique, dit Benjamin Fiorini, universitaire. Pour la première fois depuis 1791, les crimes de droit commun et même leur majorité ne pourraient plus être jugés par un jury populaire, mais uniquement par des magistrats professionnels. Je vous lis. Donc on a l'exposé des arguments, de part et d'autre d'ailleurs, Et puis encore une fois, moi, je ne suis pas spécialiste de droit et de justice, mais du coup, ça m'intéresse de voir ce que vous en pensez. Je vous lis. Comme tu le disais, me dit Miumi, le process est cathartique. Ça permet aux victimes de rencontrer leur agresseur en sécurité, de pouvoir leur dire l'horreur qu'elles vivent, mais aussi leur permettre de comprendre ce qui s'est passé et tenter de comprendre le pourquoi. Vous êtes plusieurs à me dire ça dans le chat. Retirer les process et retirer, c'est amputer aux victimes une étape du processus psychique de soins. Le procès t'aide à guérir de la honte, de la culpabilité. En cas de crime sexuel, me dit Lise, d'emprise d'escroquerie. C'est le moment où la société, le temps du procès, dit à la victime, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas co-responsable. Pistelu, j'ai été victime d'abus qui... je n'ai osé en parler que des années plus tard à ma majorité. Je me sentais honteux avant de porter plainte et le fait de pouvoir faire reconnaître publiquement que je n'avais pas à avoir honte et était la victime était l'une des raisons qui m'a poussé à faire cette démarche. Si je savais que cela pouvait se régler par un papier signé en catimini, pardon, je n'y serais pas allé. Je vous lis. Je ne fais pas de sieste. Hein. Je vous lis. Hein. Allez, encore un ou deux commentaires. On y reviendra parce que rien dit que cette réforme va être votée. Hein. S'il te plaît, Sam, quand tu lis, fais un peu de bruit. J'ai peur que le live bug quand tu dis plus rien. Ah oui, c'est pour les gens qui m'écoutent en audio, je pense. Et de temps en temps, je lis vos commentaires, ça me prend un petit peu de temps. Est-ce qu'on sait quand éventuellement ça pourrait être voté? Là, ça arrive au Sénat. Après, ça part à l'Assemblée. Il faut que les deux chambres votent le texte dans les mêmes termes. S'ils ne sont pas d'accord, après, il y a une commission mixte paritaire, une CMP. Hein, et s'ils ne s'entendent pas, en général, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Voilà. Excusez-moi, je le dis, hein, historique. Pour moi, les effets pervers de cette réforme dépassent peut-être les bénéfices, me dit Astia Lavista. Dans un monde idéal sans inégalité de défense, de compréhension des enjeux par les accusés, avec des procureurs et une police parfaitement juste, peut-être, mais là, non. Je trouve ça très pertinent. Alors la solution, l'autre solution, disent les magistrats et les avocats, c'est de donner plus de moyens à la justice, mais ça, ça a un coût. Voilà. « Wistaria me dit un procès, ça permet aussi aux policiers de faire une enquête approfondie et non bâclée sans preuve solide ou en cours. Alors, normalement, cette décision de plaider coupable, elle serait proposée à l'issue de l'instruction, hein, de l'enquête du procureur. Donc, normalement, cette enquête, elle est faite au moment où c'est proposé, quoi, normalement. Aux États-Unis, me dit le raboteur, les personnes doivent payer une grosse caution ou aller en prison en attendant de se faire juger. S'ils n'ont pas d'argent, ils préfèrent se dire comme coupable. Hein, en gros, plus t'es pauvre, plus tu as raison de te dire coupable pour réduire le temps total en prison. Ah, pour les petits délits. Je comprends. Et GT Ben me dit pour éviter les frais de défense également. Allez, on aura l'occasion d'en parler. Voilà. Pour l'instant, rien ne garantit que cette réforme souhaitée par Gérald Darmanin, qui aimerait laisser son nom sur une réforme importante, l'occasion de son passage comme garde des Sceaux, rien ne dit que cette réforme va être votée. Je vous tiens au courant. Sujet suivant, le travail le 1er mai. Et là, vous allez me dire, Samuel, qu'est-ce que tu racontes encore comme carabistouille? Le 1er mai, on ne travaille pas, c'est la fête du travail. La fête du travail, on ne travaille pas. Si, on travaille déjà en France, certains travaillent. Voilà. Mais c'est très encadré. Et là, il y a une proposition de loi qui arrive pour que, eh bien, il y ait plus d'exceptions. Voilà. Travail le 1er mai, est-ce qu'on va vers les mêmes travail, dérives que le travail le dimanche? Se demande la Croix. Voilà. Ah oui, c'est la fête, d'ailleurs, c'est pas la fête du travail, c'est la fête des travailleurs, vous avez raison. Exactement. Une proposition de loi devrait être débattue ce vendredi, le 10 avril, à l'Assemblée, afin d'autoriser le travail le 1er mai pour quelques secteurs sur la base du volontariat. Boulangerie, fleuriste. Voilà. Le problème, c'est que certains ont très peur que ce soit une porte entrouverte à beaucoup de dérives. Que dirait le fameux bon sens? Que dirait le fameux bon sens? Ben, laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Si les gens ils ont envie de travailler le 1er mai, Rudy, il faut qu'ils puissent travailler le 1er mai. C'est pas compliqué, la politique. Voilà. C'est un peu plus compliqué que ça. Le débat autour de ce texte rappelle les polémiques soulevées déjà par l'élargissement du travail au dimanche, c'était en 2015. Un an de la présidentielle, Gabriel Attal en fait son cheval de bataille. Alors après le cheval de bataille de Gérald Darmanin, le cheval de bataille de Gabriel Attal. L'ancien Premier ministre, aujourd'hui président du groupe macroniste à l'Assemblée, et candidat potentiel à la présidentielle, veut permettre le travail le 1er mai pour certains secteurs. Alors les secteurs mis en avant par Gabriel Attal, c'est la boulangerie et les fleuristes. Voilà. Ça fait plus de 30 ans que je bosse le 1er mai en boulangerie. Ça a toujours été ainsi, sans que ça choque personne. On a toujours bossé les dimanches et les jours fériés, ça lui pissait sur la flamme. On va voir le cadre qui existe. Ce qui est autorisé aujourd'hui par la loi, c'est que le chef d'entreprise de la boulangerie, le boulanger, il a le droit de travailler. Voilà. Mais il ne peut pas imposer à ses salariés, aujourd'hui, de travailler. Ça, c'est illégal. Voilà. Mais justement, la loi voudrait que ça change. Je continue. Donc là, je pense que si tu dis « moi, je travaille depuis 30 ans dans la boulangerie », c'est que tu es ton propre patron ou le patron de ta boulangerie. Si tu es salarié et que depuis 30 ans, ton patron te dit en boulangerie « mais la loi, elle dit que tu as le droit de bosser hein, le 1er mai ». Et là, tu t'es fait avoir. Hein. Ça fait littéralement 30 ans que tu te fais avoir, par contre. Je continue. Pour maximiser les chances de faire passer son texte avant le 1er mai, le camp présidentiel a adopté une motion de rejet vendredi 10 avril. Alors, c'est une espèce de petite entourloupe. Voilà, ce sont les gens pour la réforme qui ont adopté une motion de rejet contre la réforme. Vous suivez toujours? L'objectif de la manœuvre, contourner l'obstruction de l'opposition, accélérer le parcours législatif en envoyant directement la proposition de loi en commission mixte paritaire. Hein? Malinx, le lynx. Les partisans de la réforme ont voter une motion de rejet contre la réforme. Comme ça, ça passe pas par l'Assemblée et le Sénat, ça part directement en CMP, en commission mixte paritaire. Malinx. Bon, c'est un petit contournement de... Voilà. Petite astuce. Voilà. Le texte est né d'une affaire récente. En 2024, l'inspection du travail avait verbalisé 5 boulangeries en Vendée, ayant fait travailler des employés le 1er mai. Alors que la loi stipule que seul le patron peut être sur le pont ce jour chômé. Voilà, je disais pas de bêtises, c'est ça. Je sais pas si notre ami boulanger est toujours avec nous, s'il peut confirmer qu'il connaissait la loi. Furieuse, la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, la CNBPF, était montée au créneau en invoquant la tolérance administrative historique qui permettait de déroger à la règle dans certaines professions. Donc tolérance administrative, mais c'est pas ce que disait la loi, quoi. En gros, on fermait les yeux, quoi. Une tolérance tombée en 2006 avec un arrêt de la Cour de cassation qui soulignait que le Code du travail n'établissait aucune dérogation. En gros, la loi disait les salariés peuvent pas travailler le 1er mai, enfin, on peut pas leur obliger. Ouais. Seul le chef d'entreprise le peut, mais il y avait une tolérance administrative, sauf que la Cour de cassation a dit non, il n'y a pas de dérogation. Pour contourner cette règle, les sénateurs centristes ont déposé en avril 2025 une proposition de loi aujourd'hui reprise par les macronistes. Dans sa version actuelle, le texte prévoit de clarifier les règles pour permettre aux salariés des commerces de bouche de proximité, boulangerie, pâtisserie, mais aussi primeur, et aussi boucherie, et aussi fleuriste, et aussi établissement culturel, cinéma, théâtre, de travailler le 1er mai. En revanche, exclu pour l'instant de la proposition, la grande distribution ou les magasins d'outillage et de travaux. Sans surprise, la gauche et les syndicats sont totalement opposés au projet. Le 1er mai n'est pas un jour férié comme les autres. Hein, c'est historiquement le jour où on célèbre les travailleurs et les travailleuses. A souligner Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT. Les syndicats mettent notamment en avant le risque de voir l'autorisation de travail se généraliser au cours du temps, comme ça a été le cas avec le travail le dimanche. Malgré le principe du repos dominical découlant de la loi de 1906, le travail... Le dimanche n'a cessé de progresser dans notre société. Au départ, seuls quelques secteurs jugés essentiels étaient autorisés à ouvrir. Hôpitaux, je vais vous lire, hein. Transport, hôtellerie, restauration, et puis en 2009, sous Sarkozy, ont été créées les zones touristiques et commerciales qui permettent d'autoriser par principe le travail dominical dans certaines zones de grandes villes. Donc au début, on part sur quelques exceptions, et puis après, ça s'élargit, quoi. Le principe reste toutefois que le travail du dimanche ne peut être imposé aux salariés. Ce travail doit être volontaire. 6 ans plus tard, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, élargit encore le champ d'application de la loi en créant les zones touristiques internationales. Je me demande s'il n'y a pas une partie des Champs-Élysées qui est comprise là-dedans, par exemple. Le nombre de zones où le travail est facilité passe ainsi d'une centaine à plus de 1000. Pour Michel Minet, professeur du Conservatoire national des arts et des métiers, titulaire de la chaire Droit du travail et droit de la personne, le texte sur le 1er mai ouvre la porte à un même glissement. Comme le dit Idav dans le chat, on élargit, et pouf. Voilà. Comme Bernard ? Bernard. Le frère de Bernard ? Ah, Minet ! Bernard Minet ! Excellent, elle est bonne. C'est une blague de vieux, en fait, pas attention les jeunes. J'ai des vieux dans le chat, un peu comme moi aussi, qui font des blagues de vieux, Dorothée... Les Musclés, Bernard Minet, Bioman, etc. Donc ça, vous ne pouvez pas comprendre. Passé un certain âge, le vieux aime bien comme ça, les petites blagues un peu on va dire, générationnelles. Ça rassure un peu. Pardon. Donc pour Michel Minet, moitié homme, moitié... Désolé. Il dit, il y a un glissement potentiel. La grande distribution au nom de l'égalité de traitement et de la libre concurrence pourrait demander à obtenir cette dérogation. Ah ah ! La grande distribution pour l'instant exclue. Et puis dans quelques mois ou dans 2 ans, la grande distribution qui dit « Ah ouais, maintenant, la concurrence et tout. » Alors eux, les fleuristes, les boulangers, ils ont le droit de faire travailler leurs salariés. Et nous, non ? Et puis il y a un mec qui va dire « Ah, ils ont raison, la grande distribution. » Il va déposer une loi ou voilà. Concrètement, ou même un petit décret d'application qui est élargi tranquillement. Concrètement, le travail ce jour férié se traduira par un doublement de la rémunération. Aujourd'hui, tous les salariés, qu'ils travaillent ou pas, sont rémunérés le 1er mai. Si la loi passe, ceux qui travailleront le 1er mai recevront une indemnité équivalente à une journée de travail. Donc c'est x2, quoi. En théorie, les salariés devront également être volontaires. Donc c'est le même scénario que le travail de dimanche, dit Sophie Binet de la CGT. À l'époque, on nous l'avait vendu en disant que ce serait sur la base du volontariat et majoré. Hein, mieux. Le travail du dimanche est maintenant la norme dans certains secteurs, dont le principe de volontariat n'existe plus. Donc on a glissé de le travail le dimanche. Oui, on parle du 1er mai babylonien. Sur la base du volontariat, dans certains secteurs, à le travail du dimanche dans de plus en plus de secteurs, de plus en plus de zones. Voilà, et sur la base du volontariat, voilà, comme le dit Hub Melly, le célèbre volontariat, mais en fait, t'as pas le choix. Voilà. Buzzer résume, soit t'es volontaire, soit tu dégages. Ouais. Voilà, c'est un peu l'idée. Employé jusqu'à l'été dernier dans un Lidl de l'Est de la France, Mirza, on demande où elle est passée, a été le témoin au fil des années, encore une rêve de vieux, d'un glissement des pratiques. L'enseigne était un commerce alimentaire, elle bénéficie donc d'une dérogation permanente qui lui permet d'ouvrir le dimanche matin sans demander aux salariés s'ils sont volontaires, mais cela doit être mentionné dans le contrat de travail. Ce qui ne fut pas le cas pour Mirza, qui n'avait jamais signé d'avenant pour travailler le dimanche. Ce fut dans un premier temps quelques dimanches, sur la base du volontariat, et puis on a ouvert tous les dimanches matins, les plannings étaient faits sans qu'on nous demande si ça nous convenait de travailler ce jour-là. Pour nous motiver, on nous avait dit que ceux qui seraient mobilisés le dimanche auraient leur samedi, mais là aussi ça n'a pas tenu longtemps, car les plannings étaient trop tendus. Côté rémunération, les salariés bénéficiaient d'une majoration de 4,09€ par heure, soit une augmentation d'un peu moins de 50%. Normalement, c'était 100%. Hein. Normalement, c'est un jour de travail en plus, quoi. Précise Mirza, qui se souvient de certaines matinées particulièrement stressantes. L'équipe accueillant bien plus de clients qu'en semaine, mais avec un effectif réduit. En cas d'adoption de la proposition sur le 1er mai, les salariés des grandes surfaces ne seraient pas concernés, mais la Croix finit cet article en disant « Reste à savoir si cette règle va perdurer dans le temps. » Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'un côté, la liberté de travailler, la liberté d'entreprendre aussi. Ah ouais, mais il y a plein de clients ce jour-là, c'est quand même fou qu'on ne puisse pas faire travailler les salariés. Et de l'autre, notamment le danger de dérive. Je vous lis. J'adore ce volontariat, me dit Kenzo. Soit t'es volontaire pour travailler, soit t'es volontaire pour être viré. Je vous lis, hein, je dors pas. Priscilla m'a dit du coup les fleuristes, chez qui c'est normal, dans la convention collective, ils ne sont pas payés double. Waouh ! J'ai été fleuriste et pour nous, le 1er mai, c'est un jour normal. Alors, la loi Priscilla, d'après l'article de la Croix, à moins que la Croix se trompe, la loi aujourd'hui dit que les. Seul le chef d'entreprise, le fleuriste, peut travailler le 1er mai et que ça n'est pas possible pour ses salariés. Voilà. Donc, alors la croix se trompe. Et qu'il y avait une tolérance administrative longtemps, mais que la Cour de cassation a dit non, aucune tolérance à ce principe. Pardon, hein, là, peut-être je mets le doigt sur un truc. Elisabeth me dit en boulangerie, pareil, les dimanches on n'est pas payé double. Ah non, vous parlez du dimanche, je parlais d'autre chose là. Là on est sur le 1er mai. Renseignez-vous, hein. Ah voilà, coucou, je suis salarié fleuriste et je suis payé double le 1er mai. Wizard. Il n'y avait pas quelqu'un qui nous disait ? Alors Priscilla, tu t'es. Alors Priscilla, ou tu es salarié fleuriste et tu t'es fait avoir ? Ou tu es patronne fleuriste et tu pars enseigner sur la loi. Priscilla me dit, j'ai deux cases de chat, me dit, du coup, chez les fleuristes, c'est normal, dans la convention collective, ils ne sont pas payés double. Hein, Et j'ai Wizard Lynn dans le chat qui dit « Moi, je suis salarié fleuriste et je suis payé double 1er mai. » Renseignez-vous, hein. Je suis en train de foutre le dawa chez les fleuristes, moi. Snow Gray sur Twitch, je suis dans l'hôtellerie. Le 1er mai n'est pas payé double. Je crois que dans la convention collective de l'hôtellerie, effectivement, je crois qu'effectivement, le 1er mai, vous n'êtes pas payé double. Et si tu n'acceptes pas de bosser dimanche et jour férié, tu es cordialement amené vers la sortie, pas forcément gentiment. Je bosse dans l'hôtellerie et dans mon groupe, on est payé double plus un jour off à rattraper. Bon, alors je pense que la convention collective ne l'oblige pas, a priori, d'après ce que je comprends de certains éléments dans le chat, mais après, il y a des groupes qui sont plus ou moins généreux que le salarié, quoi. Je pense qu'on a un éclairage chez les fleuristes. Il y a un débat chez les fleuristes là. Je pense que Pimax nous éclaire un peu. En fleuristerie, les patrons prennent le risque donc de faire travailler le salarié le 1er mai alors qu'en fait ils n'ont pas le droit. Parce que le muguet rapporte beaucoup le jour même et moins la veille. Donc ils préfèrent potentiellement payer l'amende par tête de salarié, notamment parce que sinon les vendeurs à la sauvette récupèrent tout. Je pense que c'est plutôt ça l'histoire. Il y a quelqu'un même qui me parlait de la boulangerie tout à l'heure qui me disait un truc intéressant qui n'a pas été évoqué là, c'est que la loi permettrait aux membres de la famille du boulanger, du chef d'entreprise boulanger, de travailler, tu disais le 1er mai, hein, parce qu'on, et que c'était légal, s'il y avait un lien de parenté. Alors ça, je ne le sais pas, mais c'est un aspect intéressant. Alors, pardon, c'est de ma faute. Les vendeurs à la sauvette autorisés, disait la personne. Quelqu'un me reprend. Le 1er mai, ce ne sont pas les vendeurs à la sauvette, c'est légal. Ouais. Pardon. La personne le disait dans son message, d'ailleurs, et c'est moi qui ne l'ai pas lu dans son intégralité. Pardon, 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 pardon. C'est totalement légal. Quand c'est pas industriel, quoi. La personne le disait, d'ailleurs, mais j'ai pas lu tout le message. Alors, à toutes et à tous, quand tu as écrit un message 4 fois et que je ne le lis pas, c'est parce que je ne l'ai pas trouvé pertinent. Voilà. Du coup, les travailleuses du sexe seront-elles touchées étant des métiers de bouche? Donc, ça, voilà. Si je n'ai pas lu ce message, c'est que je ne le trouvais pas pertinent. Donc, ce n'est pas la peine de le mettre une 5e fois. Merci d'avance. Kessou, toi, impeccable. Donc voilà, voilà pour le débat. Alors c'est pareil, la proposition arrive le vendredi 10 avril à l'Assemblée. On ne sait pas si elle sera votée ou pas. Mais du coup, c'est pas tant le principe de la loi qui est contesté, c'est les dérapages après, quoi. Les dérives. Je pense que vous avez compris. Un truc que je trouve important, me dit Syrah, c'est que cette loi, c'est un premier pas dans un engrenage qui va au final rendre caduque un jour férié, qui marque une victoire sociale historique de la gauche et qui célèbre l'importance et l'efficacité de la grève. Voilà. C'est ça, on l'a pas dit assez, Syrah. Il y a un côté symbolique aussi. En jardinerie, me dit GoLab, nous sommes automatiquement ouverts le 1er mai sans autorisation nécessaire. Il semble que la convention jardinerie et grain tree soit une des rares qui le permettent. Alors, encore une fois, renseigne-toi. D'après la loi, je pense que c'est autorisé si la personne qui travaille, c'est le patron ce jour-là. Mais il me semble que pour les salariés, ça ne peut pas être une obligation. Si tu es salarié de ce type de commerce et qu'on te le dit depuis quelques années, renseigne-toi. Après, je vais pas foutre la merde, hein. Allez, je vous emmène dans l'espace, parce qu'ici on a des moyens de fou, voilà, et en plus on finit par quelque chose de joli, voilà. Je vous emmène dans l'espace, je vous emmène vers la Lune. Alors déjà, première bonne nouvelle, les astronautes sont revenus ce week-end sains et saufs. Je vous mets en orbite, exactement. déjà ils sont revenus sains et saufs, moi je m'inquiétais premier degré. Du retour des astronautes sains et saufs sur Terre, hein. Vous savez qu'il y avait des interrogations sur le bouclier de protection, hein. Bon, finalement ils sont rentrés, ils sont en pleine forme et tant mieux, ils ont vécu un truc incroyable et c'est ce dont nous parle une astrophysicienne dans Libération, Madame Fatoumata Kébé, fondatrice d'une association qui s'appelle Éphéméride, que vous connaissez peut-être, et elle dit des trucs hyper intéressants, je trouve, sur ce que ça peut nous inspirer à ceux qui ont la chance d'aller loin dans l'espace pour voir la Terre et à nous qui, sans aller dans l'espace, au risque de se faire cramer parce que le bouclier marche pas bien, bah, pouvons quand même nous interroger sur ça, quoi. Artemis 2, cette beauté écrasante à voir flotter la Terre dans le vide. L'astrophysicienne Fatoumata Kébé salue les astronautes qui ont permis de revivre l'effet surplombant. Ce sentiment de protection que nous éprouvons pour la Terre en la voyant de loin, en anglais on dit overview effect. Overview effect. Voilà, et en français on va dire l'effet surplombant. De quoi s'agit-il? Environ 100 km au-dessus du niveau de la mer se dessine une frontière que très peu d'êtres humains ont franchie. Depuis le premier voyage de Yuri Gagarin, le 12 avril 61, ils sont moins de 700 à avoir traversé ce seuil invisible, cette limite qu'on appelle la ligne de Kármán, je ne sais pas si quelqu'un l'a dans le chat, marque plus qu'un simple changement d'altitude, elle symbolise le passage d'un monde à l'autre. Mais franchir cette frontière n'est pas sans conséquence, car au-delà de cette ligne, quelque chose d'intangible se produit. Kármán. Celles et ceux qui y accèdent décrivent un ressenti difficile, presque impossible à recréer sur Terre, une expérience profonde, à la fois émotionnelle et cognitive, qui bouleversent leur manière de voir le monde. Ce phénomène porte un nom, overview effect, effet de vue d'ensemble. D'après de nombreux témoignages d'astronautes, overview effect ne se résume pas à une émotion passagère. Hein. Souvent, les astronautes, quand ils sont dans l'espace, vous voyez, ils ont des mots un peu grandiloquents, un peu waouh, un peu. C'est pas que ça. C'est pas qu'une émotion, c'est un basculement intérieur, dit l'astrophysicienne qui a écrit cette tribune, ce billet. Il mêle émerveillement, stupeur, parfois même une forme de vertige face à l'immensité. Les astronautes racontent une beauté saisissante, presque écrasante, en découvrant la Terre, hein, flotter dans le vide, seule, lumineuse, fragile, cette Terre si plate, ça, ce disque incroyable. Et tout cela naît d'un simple changement de perspective. Jusqu'à la mission Artemis 2, qui vient de rentrer sur Terre, donc, notre vision de l'espace se limitait souvent à la proximité terrestre incarnée par la Station Spatiale Internationale. Occupée sans interruption depuis 2000, l'ISS évolue à 400 km d'altitude. Près de 300 astronautes s'y sont succédés, capturant des images sublimes de notre planète. Parmi eux, depuis février, une Française, hein, Sophie Adenau, deuxième Française dans l'espace après Claudie Aignoret, qui y séjourne pendant 9 mois. La France compte désormais 11 astronautes ayant franchi cette ligne de Kármán, rappel de la jeunesse de l'exploration spatiale. Et justement, lors de ses observations régulières de la Terre depuis l'ISS, me dit Sugar, Thomas Pesquet disait avoir développé une conscience encore plus vive, une conscience écologique encore plus vive. Mais Artemis 2 marque un saut décisif. Pourquoi? Première mission habitée du programme Artemis, elle avait à bord du vaisseau Orion 4 astronautes. Trois Américains, un Canadien. Après 50 ans d'interruption, elle a relancé l'exploration lunaire via une trajectoire de retour libre autour de la Lune sur 10 jours. Première incursion humaine dans l'espace profond au-delà de l'orbite basse, cette mission aux technologies inédites fut très coûteuse, 90 milliards de dollars, certains disent plus. Une formation pointue à la photographie spatiale a sublimé cette odyssée, on a vu des images incroyables, mais ce n'était pas par hasard. Les astronautes se sont entraînés longuement sur une fausse lune gonflable, simulant relief et éclairage. Ont rodé les caméras d'Orion dans les simulateurs, ont utilisé un Nikon avec optique éprouvée. Ces images exceptionnelles, Terre émeraude se levant derrière la Lune, désolé, nous ont offert à nous, qui n'étions pas dans l'espace, un frisson overview effect, cette prise de conscience bouleversante de notre planète comme un tout fragile et précieux. Souvenez-vous vendredi. Vendredi, on a fait ça. On est allé voir des images incroyables sur Internet, mises en ligne d'ailleurs par un streamer français. On lui a mis une petite musique incroyable et on s'est fait une petite séquence émotion pendant de longues minutes où on a regardé ces images. Voilà. Et on a vécu un petit peu, à notre petit niveau, nous, un overview effect. Merci Stardust, exactement. Et l'astrophysicienne qui a écrit cet article dans Libé dit « Ça nous a permis cette prise de conscience bouleversante de notre planète comme un tout fragile et précieux. » En prenant de la distance, les astronautes nous font prendre conscience de ce qui est essentiel. Les frontières disparaissent, les conflits s'effacent, il ne reste qu'un monde unique suspendu dans l'obscurité. Et pour comprendre l'ampleur de cette révélation, il faut revenir aux années 60, à l'époque du programme Apollo, près de 400 000 personnes mobilisées, une décennie d'efforts, un investissement colossal, l'équivalent de plus de 200 milliards de dollars actuels pour atteindre un objectif, la Lune. Et pourtant, au terme de cette aventure, une vérité inattendue s'impose. Nous sommes partis pour explorer la Lune et ce que nous avons découvert, c'est la Terre. Ces mots de William Anders, prononcés en décembre 68 depuis l'orbite lunaire, capturent parfaitement l'essence du overview effect, car tous les moyens déployés, toutes ces technologies, attends, je regarde un truc. Attendez, je regarde un truc. C'est chez moi, ça, vous inquiétez pas, c'est mes réunions qui arrivent. Je veux juste un petit mail, maman. C'est un truc qui peut-être nous faire rire. Non, parce que je voyais que la Fédération des entrepreneurs de boulangerie venait de me mentionner dans un post LinkedIn. Et je me dis, on vient d'avoir un débat sur le travail le 1er mai dans la boulangerie. Et littéralement, 2 minutes plus tard, je reçois une alerte, vous êtes mentionné dans un post sur LinkedIn de la Fédération de boulangerie. Je suis allé voir. Et pas du tout. C'est juste parce qu'en fait, ils étaient au festival MVP, Ma Vie Pro, de samedi. Et ils sont félicités de l'expérience. Mais à un moment, je me suis dit, waouh, j'ai dit une connerie. Samuel, lanceur d'alerte. Et en fait, non, tout va bien. Est-ce que je suis dans le pétrin? Joli. Je reviens à la Lune. Tous ces moyens déployés, toutes ces technologies, toutes ces audaces ont finalement permis à l'humanité de se redécouvrir elle-même. Quand l'exploration, la conquête de l'espace nous permet de redécouvrir la Terre. Aujourd'hui, avec des missions comme Artemis 2, l'humanité renoue avec cette expérience. Parce que c'était il y a longtemps, Apollo. Les 4 astronautes ont eu l'honneur d'être parmi les premiers humains à observer, contempler de leurs propres yeux, t'as vu Drakeos, la face cachée de la Lune. Avant, on avait des images de la face cachée, mais c'est la première fois que des astronautes les ont vues de leurs yeux vus. Au-delà de l'exploit d'avoir atteint cette région de l'espace, leur regard compte tout autant, leurs mots, leur silence, la manière dont cette vision les aura transformés. Excusez-moi, je lis un truc. Je lis un truc passionnant. Je lis, je lis. Oh mais Rakeo, j'avais pas vu ton raid. J'ai vu ton message dans le chat, mais j'ai pas vu le raid, j'arrive. Vous étiez sur quoi ce matin? Vous avez parlé de quoi? Merci Alexandra. Vous étiez sur quoi, Drakeos? Interview de Madame Loiseau, députée européenne. Hein? Excellent. Sur la défense européenne? Incroyable. Merci. J'avais pas vu ton raid, j'avais juste vu ton bonjour. Merci. Merci, merci Salonchita. Merci Papa Crux. Merci Martin Len. Merci Baby Juriste. Merci Qatar. Dodge My Banana. Akarisu. Tam Poulet. Saulbur. Voilà, j'ai remercié personne depuis 1 heure. Désolé. Bravo Drakeos. Voilà. Donc les astronautes. Leur silence, la manière dont cette vision les aura transformés. Mais heureusement pour nous, il n'est pas toujours nécessaire de quitter la Terre pour commencer à changer le regard, nous dit Madame Fatoumata Kébé. Le 12 août, la Lune nous donne rendez-vous. Ah, le 12 août. Hop, agenda, 12 août. Qu'est pas ça? La Lune donne rendez-vous. En fin de journée, la Lune viendra glisser devant le Soleil. Elle viendra glisser devant le Soleil, plongeant une grande partie de l'Hexagone dans la pénombre. T'imagines, c'est le 12 août. Voilà. T'es à la plage. Et c'est la nuit. Et là, tu dis, ah, oh, le temps passe tellement vite en vacances. C'est déjà de l'heure de l'apéro. Bah non, c'est une éclipse. Pendant quelques instants, notre étoile sera occultée entre 89 et 99,5%. Et ce jour-là, il suffira de lever les yeux. Non, pas seulement pour observer un phénomène rare, mais pour éprouver à notre petite échelle, voilà, avant l'apéro donc, ce léger basculement de perspective. Un instant suspendu où la lumière change, où le monde semble différent, et où peut-être nous pouvons entrevoir un peu plus clairement la place que nous occupons dans l'univers. C'est beau ou c'est pas beau? Voilà. Et on finit là-dessus. En beauté, en seigneur, en prince. L'obsession de l'apéro, Sam, ça va? Oui, bah parce qu'il n'y a plus, il n'y a plus d'apéro dans ma vie. C'est... Maintenant, c'est le taf, le taf, le taf. Tu me diras pour la Zilane si tu cherches un mate. À ce jour, Drakeos, je pense que je fais pas la Zilane. À ce jour, je pense que je fais pas la Zilane. Ça me manque, moi. Ça me manque les petites tournées, les petites. Allez, allez, patron, remets-moi la même. Mais c'est, je peux plus. Le 12 août, l'éclipse. 12 août. Faudrait qu'on fasse un rendez-vous apéro dans ce stream. Merci Miss... Oh, merci Miss Nine pour les bits. Merci Chris Prout. Ah, je vois qu'apéro, c'est un mot qui allume plein de choses dans le chat. Hein. Le savoir est une arme. Petite info pour tout le monde, ça fait maintenant des années qu'on a des photos du Big Bang, car en regardant dans un télescope, on regarde dans le passé et au plus on regarde. Et plus on regarde loin, plus on revient dans le passé. Merci de savoir être une arme. J'ai rien compris, mais j'adore cette idée. Et je te fais confiance sur le coup là. Je me demande si les, il y a, si le gars, je demande si les personnes qui pensent que la Terre est plate pensent aussi que la Lune est plate ainsi que les astres. Non, les gens ne pensent pas que la Terre est plate. La Terre est plate, donc il n'y a pas la pensée plate. C'est un fait. Comment ça, les personnes qui pensent que la Terre est plate? Tu n'as pas à le penser, il suffit de regarder, ça se voit, hein? Très bizarre cette remarque. Salut MG, bon train. La Lune est creuse. Ah bah ben non, elle peut pas être plate et creuse. Ah non, choisissez. Non, choisissez vos complots par contre. plus on regarde loin, plus on regarde dans le passé. Parce que la lumière prend du temps à nous arriver. Ouh, ça je l'ai, ça. Ok. La célérité, la vitesse de la lumière, ça je l'ai. Le single, l'apéro de Tiffany Lady, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Encore musique, encore, j'ai encore me... L'apéro? C'est quoi cette musique? Y'a l'apéro, la chanson c'est Y'a l'apéro. Il y a une chanson qui s'appelle Y'a l'apéro, Y-A, c'est collé, hein, Y-A-L-A-P-E-R-O, l'apéro. Alors, je vous mets pas. Quelqu'un me dit pas en stream, ça m'a eu, donc je vous mets pas les images. Hein. C'était le début de la chanson. Après il y a un truc. Personnellement, moi, je préférais ça. Je voudrais qu'on reste sur ça. Voilà. Ce sera l'image de cette revue de presse. Trump qui poste cette image, cette photo en Jésus. Qui fait des trucs. Voilà. Et c'est pas. Alors, c'est de l'IA. Monsieur Trump s'est servi de l'IA pour faire ça. Mais c'est vraiment posté par lui. Voilà, je voudrais qu'on reste là-dessus. Ouais. Merci les amis pour ce matin. Le timing, mais vous pouvez mettre ça en fond d'écran si vous le souhaitez. Merci pour ce matin. Alors, n'oubliez pas le stream demain soir. Ne me dites pas que vous avez autre chose. Ne me dites pas que vous avez apéro justement. Demain soir 20h. Hein, je te veux, toi, tu me vois toi là, toi qui m'écoutes sur Twitch en direct maintenant, toi qui vas m'écouter en replay sur YouTube, toi qui vas m'écouter tout à l'heure en podcast audio, viens me voir à 20h mardi soir, demain soir, à 20h sur twitch.tv/Samuel Etienne, viens me voir parce qu'on a un stream de fou. Voilà. On a PA, on a Kevin Tran, on a Enjoy Phoenix, on a Bagheera, on a même un invité surprise de fou. Voilà. Pour un grand jeu de culture générale, il y aura des. Je ne devrais pas vous le dire, mais il n'y aura pas que des questions, il y aura des fléchettes. Voilà, je ne voulais pas vous le dire. Voilà. Il y aura des petits jeux. Voilà, il y aura des petits jeux. Je crois qu'il y a du basket. Je crois qu'il y a des. Je l'ai dit à personne jusque-là. Il y aura des fléchettes. Il y aura plein de petits jeux, des questions. Mais oui, on a mis les petits. On a pris les petits plats, on a pris les grands plats, on les a mis dans les grands. Ça va être une dinguerie. Voilà. Ouais. Donc c'est demain soir, c'est la rigolade avec des amis. L'invité surprise, je ne dis pas qui c'est. Alors je vous donne ses initiales. Juste les initiales de l'invité surprise, c'est C-A. C'est tout. Je ne vous dis rien. Ça va être la rigolade. Ok? Alors, je vais faire... qui est en live et on fait un raid. Attends, j'ai la chanson, il y a l'apéro dans la tête. Là, ça fait mal. Écoutez, je vois l'ami étoile qui est en train de se buter sur les jeux de la Zilan, parce que manifestement, Monsieur Étoile veut tout casser à cette Zilan 2026. Je n'en serais sans doute pas. Voilà. Là, c'est marqué qu'il joue à Street Fighter 6, mais c'est faux, il est sur un autre jeu. Voilà. Il est à fond, il est à fond. Voilà. Ça mérite d'être encouragé, ça. Allez, on va voir Ryu. Il va se buter pendant un mois au jeu de la Zilan, le Ryu. Allez, c'est parti. Du soutien. Le Ryu, voilà. Ah, maintenant il a changé. Il est sur Rocket Boots Mania, voilà. Let's go. Alors ici, on fait attention. Ah, est-ce que je stream ce soir? J'essaye, mais il faut surtout que je prépare le live de demain. Si vous ne me voyez pas ce soir, ne m'en voulez pas. Je ferme la caméra parce qu'on va raid. Et après, parfois, il y a des dingueries. Cadeau de viewers au festival MVP. Et ils ont le décor désormais. Voilà, donc... on éteint la caméra. Voilà. Hop. Donc ce soir, peut-être qu'on se voit, mais a priori, il faut que je bosse sur l'émission de demain. Je vous tiens au courant. Des bisous. Je lance le raid. On va voir Ryu. Et puis passez une bonne journée. Puis un bon début de semaine. Merci pour ce matin. Ciao, ciao. Ça part dans 5. Dans 4. Dans 3. Dans 2. Attendez, j'ai oublié de vous montrer un truc. Attendez, bougez pas. Ah, j'éteins la caméra. Je la rallume. C'est un cadeau.